service après-vente de la F1.
Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble!
It's lights out, away we go, the staff and gets an excellent start. Sebastian Vettel needs a cover him off, give me right on the inside, and he's cracked with Verstappen, he's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner, he's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Right, yes, Vettel going backwards, he is off. Looks to be out of it too!
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1, une émission magnifique entre amis, oui, puisque c'est la famille, qui va revenir ce soir sur le Grand Prix du Brésil 2018. C'est Dino au micro et ce soir, heureusement pour vous, je ne serai pas seul dans cette émission, puisque d'abord à ma droite, il a perdu à peu près 240 kilos depuis son départ du SAV. Depuis qu'il est revenu, il avait maintenu son poids de forme et là, ce week-end, il a fait des cookies et il est revenu à son poids d'avant. Bonsoir Gus Gus.
Bonsoir. Même pas.
Non. En tout cas, j'espère que lors de nos prochaines rencontres, tu viendras avec des cookies faits maison.
De toute façon, c'est pas prévu qu'on se voit avant. Fou.
Certain temps. Ensuite, à ma gauche, il y a un homme dont on oublie de rappeler que si vous changez deux lettres à son nom, ça fait bite. C'est Bilo. Bonsoir Bilo.
Bonsoir Dino et merci pour cette introduction fort originale.
J'aime t'introduire à
la vaseline. Bilo.
Et enfin, en face de nous, vous avez un homme pour qui le pain au chocolat est de la chocolatine. Un homme qui a donc une vie triste, hein, voilà, puisqu'il est, il est seul en France, enfin, il est seul dans une certaine partie de la France. Enfin, bref, on se comprend. Enfin, je me comprends, c'est le principal. Lui, en tout cas, n'a pas besoin de me comprendre, puisqu'il s'en fout quand je parle. C'est Bûcheur. Bonsoir, Bûcheur.
Bonsoir. Putain, comment t'as deviné que je m'en branlais quand tu parlais?
Ben oui. Alors, j'avais dit,
tu peux pas voir ma tête.
Dit, il faut pas oublier le « en », hein, quand on dit cette phrase, par contre.
Je n'avais pas fait le lien avec la branlette, mais oui, si tu veux.
Je le fais pour vous, moi.
Alors, messieurs, comment allez-vous ?
Bien.
Bien. Ça va. Très bien.
Au terme de ce 20e Grand Prix de la saison.
C'est long.
Ça y est. Ouais. La saison est terminée, enfin. Ça y est. On va pouvoir...
Elle est terminée depuis quelques Grands Prix, déjà.
Oui, il n'y a que 20 Grands Prix, de toute façon.
Oui, voilà, il n'y a que 20
oui.
Abu Dhabi, c'est une course d'exhibition.
Officiellement terminée.
Non, pour tout le monde, il y a 20 Grands Prix. Pour Lewis Hamilton, il y en a 18.
Ouais. Et pour les tifosi que sont Dino et Gus Gus, la fin de la saison, c'était après la Hongrie.
Non, il n'y a pas une saison. Oui, cette saison, la Scuderia a pris une année sabbatique. Ils reviendront plus fort l'année prochaine.
À force de revenir toujours plus fort, ils vont finir par être vraiment bons.
Oui, d'ici 15 ans, on est bon. Pas avant, ça m'arrange pas. Mais moi, dans 15 ans, j'ai rien prévu. Donc, s'ils pouvaient gagner un titre dans 15 ans, ça m'arrangerait bien.
Il y a le record entre Scheckter et Schumacher à battre, hein, 21 ans. Voilà.
Eh, ça avance. On fait progresser la
science. On est à la moitié, hein.
Donc, messieurs, revenons quand même sur ce qui nous réunit ce soir, à savoir le Grand Prix du Brésil. Petit exercice rituel. Voilà, on a attribué une note à ce merveilleux Grand Prix. Donc, un Grand Prix du Brésil qui a reçu une note, par exemple, de l'ami Ben Lop, qui est de 16,44. Voilà. Bon, 44, c'est une référence évidente à Lewis Hamilton.
À la Loire Atlantique.
Oui, tu connais bien tes départements et je sincèrement je suis impressionné.
Oui, je suis d'une vieille génération.
Oui. 14,50, c'est ton score, Bilo, et ça tombe bien, c'est exactement la même note que Bûcheur. Donc vous pourrez avoir un débat à un moment donné, mais on va vraiment, je pense, polariser le débat entre vous deux. Vu que vous êtes d'accord, ça va être intéressant de vous opposer pour savoir
ça
qui
va être
est le
court
plus d'accord
surtout
avec l'autre.
Ça va être court surtout, contrairement à tes monologues.
Bon, alors, c'est une rumeur, mes monologues.
On parlait d'originalité
justement,
tout à l'heure.
Justement, puisqu'on parle de moi, j'ai attribué à ce Grand Prix la note de 17,31. Il se trouve que je crois que c'est ma meilleure note de la saison. Fab a attribué quant à lui 18, c'est la meilleure note attribuée à ce Grand Prix parmi les chroniqueurs. Gus Gus, tu as donné une note de 16 et tu t'en expliqueras dans quelques instants. Ensuite, nous avons Redscape.
Tu t'en excuseras.
oui, éventuellement. Nous avons Redscape qui a mis un 14. Avec un petit commentaire, belle course à l'avant avec une stratégie décalée de Red Bull qui se mêle à la victoire. Saluons également le retour tant attendu du dernier Rocky avec un jeune acteur prometteur, hollandais très prometteur. Alors, je crois
Guillaume
que...
Guillaume Roquelin est de retour ?
Oui, tout à fait. Et je m'excuse d'avance pour les petits rototos que je vais faire puisque je suis en train de boire et donc du coup je fais des rototos. Quoi qu'il est tard, donc ça devrait être des rototards. Bref.
C'était bon. Elle était bien celle-là, bizarrement.
Elle était bien vendue. Et ensuite, enfin, parmi les chroniqueurs, le dernier à nous avoir donné une note, c'est Shinji avec un 16, là aussi. Donc, le même gang que Gus Gus. Au-delà de l'événement Verstappen-Ocon, ce fut une course très plaisante à suivre avec des Red Bull au-dessus du lot. Globalement, ça nous fait tout ça une moyenne. Alors, on fait jamais la moyenne des audits, des chroniqueurs. Ça nous fait une moyenne qui ne se calcule pas en instantané. Donc, c'est pas grave. On s'en fout. C'est une information non essentielle. En tout cas, ça nous fait une moyenne qui, je pense, est au-dessus de la moyenne du public, qui est de 14,64. Ce n'est pas la meilleure note du public, puisque le public avait mieux noté le Grand Prix d'Austin, sans doute des fans de Kimi Raikkonen. Mais de mémoire aussi, Bakou avait été mieux noté, la Chine avait été mieux notée, la Grande-Bretagne aussi avait été mieux notée que ce Grand Prix du Brésil. Au total, ça nous fait une moyenne de 15,71, qui est visiblement, après un rapide coup d'œil, la deuxième meilleure moyenne de la saison après le Grand Prix des États-Unis il y a un mois. Alors messieurs, est-ce que vous voulez vous épancher sur vos notes ?
Non.
Oui, alors... Oui. Moi, j'ai envie de m'épancher sur ma note. Bon, la cuisson était bien. En revanche, la garniture était beaucoup trop importante, ce qui fait qu'on a eu du mal à couper, à les couper. Et donc voilà, j'ai mis un 16. C'était très bon, mais ça, sur la présentation, il manquait de l'esthétisme et de la praticité pour prendre la pizza, voilà, en main. Les quiches étaient très bonnes.
Ouais, les quiches, c'est les meilleures.
Et j'allais enchaîner sur vous faites une allusion culinaire, on parle de gros gens. Avec la quiche. Avec la quiche, c'était du niveau de Scani, c'est pas digne de moi.
La quiche est restée française.
Non, mais ma note, pour être sérieux deux minutes, ma note est un peu tronquée justement parce que j'ai cuisiné pendant le Grand Prix, c'est pour ça que je me permets ce parallèle. J'ai suivi ce Grand Prix d'un peu loin. Je n'ai pas manqué les polémiques et les moments croustillants, hein, tels la pâte à pizza. Mais oui, ma note est un peu à la volée, quoi. Enfin, faut pas en prendre trop. Voilà, j'ai noté ce qu'il fallait noter. Voilà.
Du coup, la note est à ton image, puisqu'il faut pas la prendre au sérieux, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Il faut jamais me prendre au sérieux.
C'est bien cette ambiance de merde en fin de saison. On sent qu'on s'aime pas, et ça, c'est beau.
Mais c'est chaque fois que t'animes une émission qu'il y a une ambiance de merde.
Oui.
Moi, je suis revenu juste pour ça.
Mais il y a que pour ça quand tu voulais.
Mais oui. Il fallait un peu de haine et de dégoût mutuel. Donc, quand même, Bilo Buchor, 14,5 chacun, petite explication.
29.
Non, je ne m'explique pas.
je suis format.
Bertrand Renard est parmi nous.
Oui. Non, 14,5 parce que c'était un Grand Prix pas fou, mais très intéressant dans la mesure où il y avait une belle bataille pour la victoire entre deux pilotes. J'aurais pu avoir entre plus de pilotes, mais en tout cas, ça c'est dans le haut du panier, ça s'est bien bataillé. Il y avait des stratégies différentes, il y a eu des dépassements et des bagarres. Voilà, pour moi, c'est un bon Grand Prix. Et puis, je remarque que ça fait quand même trois Grands Prix de suite où il y a quand même de belles batailles parmi les premiers sur la piste. Donc, c'est bien.
Bien, mais pas top, topissime. Et je trouvais, pour qu'il me mérite plus, pour moi, il me manquait un peu d'intensité et de suspense. J'étais pas sur assis sur le bord de mon canapé à attendre ce qui va pouvoir se passer à la suite. Donc voilà. Mais sinon, oui, on s'est pas ennuyé.
Ben, si Ocon avait été dans le tour, ça aurait été. Voilà.
Déjà, il se serait battu pour la victoire. Et ça, bah, c'est pas près d'arriver. Tu verras déjà se battre, il sait pas le faire. Il sait pas le faire sans ses mécaniciens, je veux dire. Moi, j'ai mis 17-31 parce que j'ai beaucoup aimé cette course et pour la raison un peu inverse de la tienne, Bouchard. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette course, c'est que justement, c'était pas une course qui jouait à un suspense de malade. On a eu des événements, on a eu une course assez sympa avec une lecture stratégique et des zones de course qui étaient assez claires et limpides. Et moi, en fait, j'ai vraiment été emmené dans cette course que j'ai trouvé hyper agréable. Donc, effectivement pas fofolle, mais en fait moi c'est ce que j'aimerais voir dans toutes les courses, en fait des courses comme ça avec de temps en temps des courses fofolles, mais des courses comme ça pour moi ce serait un classique et un standard que je consommerais volontiers chaque week-end.
Ah oui, clairement si c'est la moyenne d'une saison, ce serait bien. Ouais,
14,5 c'est une bonne note.
Oui, et c'est pas si différent des États-Unis, le suspense haletant jusqu'à la fin en moins, mais c'est à peu près le même genre de course, quoi.
Alors j'ai parlé de suspense et d'intensité.
Oui, intensité. Oh, c'est intense.
Pas tant que ça.
Intensité, c'est comme partout ailleurs en métropole dans le sud-ouest ou il y a un sens.
Non mais si tu prends le bouton de l'intensité que tu le montes et que tu le vas jusqu'à 11, tu as bas coup. Voilà.
Ouais.
Là, c'est ce que j'appelle l'intensité. C'est pas du suspense, mais c'est intense.
Donc en tout cas messieurs, merci à vous.
Au revoir.
Je vous note. Voilà. Je dois dire que je prépare un peu cette émission à l'arrache. Et donc du coup, merci à vous messieurs. C'était un plaisir. Maintenant, vous pouvez retourner à vos cookies. Je vais finir l'émission seul. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est quitte à finir l'émission, autant qu'on passe tout de suite direct au coup d'œil dans le rétro.
Venez.
Ah, ce vieux générique qui nous rappelle l'époque où on regardait la télévision. Parce qu'on n'avait pas au cœur Texas Ranger, donc on se contentait de la Formule 1. Et puis on regardait ça entre les pubs. Voilà. On regardait les pubs entre la F1, en fait.
Il y avait les V12.
Oui, ah putain, les V12, c'était tellement bien. Les V12 et les Chocobén, c'est mes préférés. bref, messieurs, un petit coup d'œil dans le rétro. J'avais envie de changer. Voilà, parce que sincèrement, la course n'était pas si bien que ça. Donc du coup, ça vaut pas le coup qu'on en parle pendant une heure et demie. Gros, ça fait chier. Voilà. Donc, messieurs, je vous rappelle qu'hier, nous étions le...
11 novembre.
Et 2018. C'est bien, il y en a qui suivent. Oui, le 11 novembre 2018, petite parenthèse pour vous rappeler qu'il y a exactement 100 ans, enfin 100 ans et un jour hein, ce soir, hein, puisque nous sommes le 12 novembre, il y a exactement 100 ans donc et un jour, sonnait la fin d'un des conflits les plus absurdes de l'histoire de l'humanité, en tout cas de l'humanité récente. Voilà, et que... Et meurtrier et qu'avant de célébrer certains maréchaux, il faudrait peut-être simplement rentrer dans l'histoire que des événements comme le 11 novembre ne devraient plus être inscrits dans l'histoire. Voilà, donc c'est le petit moment anti-Macron de cette émission, puisqu'on rappelle, nous sommes des gens de gauche.
Rappelez-vous. Pour toi ?
Ah non, perso, moi je suis du FN, oui. Hein, moi je suis extrême droite et
ah.
tout.
Ah non,
tu sais que si on change de lettre à FN, ça fait mytho ici.
Moi, je suis du parti des Gilets jaunes, moi, personnellement.
Ah oui, oui, moi aussi. J'adore les Gilets jaunes.
Rendez-vous
le gasoil est trop cher. Oui.
Restez chez vous, ne gaspillez pas samedi. C'est ça.
Oui, d'ailleurs, voilà. Surtout dans le secteur de Soissons, ça m'arrangerait.
Nous bloquerons les blocages.
Donc en tout cas, messieurs, le 11 novembre, c'est le jour de naissance de Piero Scotti. qui est né le 11 novembre 1909. Bon, il est décédé en 1976, mais c'était un pilote italien qui avait participé à un Grand Prix, le Grand Prix de Belgique 1956. Donc voilà, nous avons une pensée pour lui ce soir, en plus des milliers de poilus. Puisqu'on parle de poilus...
Oui, on salue le Portugal, oui.
Oui, effectivement, que tu représentes fièrement. Puisqu'on parle de poilu, c'est Vittorio Bambrilla qui est né aussi un 11 novembre, le gorille de Monza. Voilà. Mais je ne vous ferai pas un coup d'œil dans le rétro sur Bambrilla, parce que ce serait trop logique de faire un coup d'œil sur un poilu, le jour des poilus. Et voilà. Alors, pour le coup, si je vous dis le nom de Ole Nygren, ça ne vous dit sans doute rien.
Ah non,
moi non plus.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Et ça tombe bien, messieurs, puisqu'il n'a pas participé à un Grand Prix de Formule 1, il a participé à des Grands Prix hors championnat du monde. C'est un lointain ancêtre de Marcus Ericsson, donc quelqu'un dont le niveau est sans doute fortement sous-évalué. Enfin, nous avons... non, pas enfin, puisqu'il y a encore deux personnes qui sont nées un 11 novembre en Formule 1. Nous avons Mac Ellings, voilà, qui a disputé essentiellement les 500 miles d'Indianapolis en 1950 et 1951. Mais surtout, nous avons Madame Maria Teresa De Filippis, née le 11 novembre 1926 à Naples. Est décédée, rappelons-le, récemment, en 2016, Maria Teresa de Filippis, qui, rappelons-le, est, même si la mémoire est bonne, la première femme à avoir disputé une course de Formule 1. Je parle sous ton verdict, Gus Gus, j'ai un doute. Oui, il me semble que c'est ça.
Officiellement, en championnat du monde, probablement, oui. Je n'ai pas l'info exacte. Mais,
Oui, 1958. 1958, elle a fait Italie 58, Portugal 58 et Belgique 58. Non, bon, évidemment, je ne vais pas vous faire un coup d'œil dans le rétro à propos d'une femme. C'est tellement pas 2018. Donc, du coup, oui, moi aussi je t'aime, Bibi. Donc, du coup,
je vais parler cuisine.
Oui, c'était par à propos. Du coup, bah, de quoi parler ? Eh ben, il y a eu des grands prix qui se sont déroulés en 2018. Il y a eu exactement un grand prix qui s'est déroulé en 2018. C'est le Grand Prix du Brésil 2018. Et donc, messieurs, pour ce coup d'œil dans le rétro, je vais vous demander. Attention, parce qu'il y a un gros lot à la clé. Je vais vous demander, messieurs, à tour de rôle, de me citer un pilote qui a participé au Grand Prix du Brésil 2018.
T'es sérieux, hein ?
Putain, j'ai peut-être une chance de gagner.
Putain, j'ai pas révisé, merde.
Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Oui.
Vous êtes sûr ?
Bah, ouais, je suis chaud.
Il va falloir dire un serbo-croate.
Non, tout de suite. Non, non, franchement, je... Tu veux quelque chose de complexe ?
Bah, un peu
non.
Plus, mais de rien. Bon, là, on va s'emmerder. En plus, on va perdre une demi-heure parce que Bûcheur, quand même, même ça, il aurait du mal.
Non, quand même. Connard. Je t'emmerde, Gus.
Bon. Bon, non mais je sens qu'il y a un vent pour complexifier un peu le jeu. Donc, ok, on va complexifier un peu le jeu. D'accord. J'entends les voix de la foule. Donc, on va complexifier un petit peu le jeu. Parce que je sens que c'est
trop tard. On est déjà 20 minutes d'émission. On n'a même pas commencé la première rubrique, les mecs.
Donc, messieurs, vous ne le savez peut-être pas, alors c'est pas le 11 novembre, mais le 10 novembre, nous avons commémoré un anniversaire, plus exactement un 70e anniversaire. Savez-vous de quoi ? Samedi, nous avons fêté l'anniversaire, les 70 ans plus exactement.
Bah, pas du championnat de monde de Formule 1, puisque c'était en 1950 et ça remonte à 48, donc déjà...
Oui, mais si on fait la liste de,
ça part
de,
mal.
Qu'on n'a pas célébré le 60e anniversaire il y a deux jours, on n'est pas couché, on n'est pas rendu, tu vois.
Ça risque d'être long, effectivement. On n'est pas couché, ça fera un bon titre d'émission, ça.
Je sais pas, anniversaire
je
de jockey...
Je sens qu'il y a un concept à développer.
Non, je sais pas.
Alors...
Je donne ma langue au chat.
Ah, si même toi, tu joues pas...
Mais non, mais je sais pas, je veux aller me coucher tôt, je travaille demain.
Ah, toi, tu travailles
c'est
aussi
ça, la question,
ah,
en fait.
Ah, putain. Oui, bah oui.
Vous êtes encore avec le vieux logiciel, vous croyez que je travaille pas et que je pèse 150 kilos, mais c'est fini ça.
Je pèse 148 et je travaille.
Et je travaille à mi-temps.
Non, mais je
veux pas. Non, bon, allez, je casse le suspense, messieurs. Il y a 70 ans et deux jours, donc, était déposée la marque Scrabble. Non, pas de. Waouh, wow, génial! Wow.
Si, si, j'aime bien.
Oh, c'est bien!
Oh, un jeu qui est triple!
Waouh!
Et oui, effectivement, il y a 70 ans, le créateur du Scrabble, qui ne s'appelait pas encore Scrabble, avait décidé de déposer la marque Scrabble. Voilà. Et donc, du coup, Scrabble, devenu jeu internationalement connu, dont est-ce que quelqu'un peut nous rappeler le principe du Scrabble?
Mais il faut faire des mots avec les lettres que tu pioches dans une autre. Voilà, allez, on va abréger parce que pas non plus.
Oh, qu'est-ce que t'es vraiment fort. Hein. Moi, t'es, j'ai même envie de te nommer Chiconfort, mais non. Ça serait trop facile.
Ah oui, je ferai tout pour. Vas-y,
je fais plus ces conneries-là.
Je te préviens, si tu le fais, je me barre.
Oui, mais encore plus, vas-y.
Donc, messieurs, je vais effectivement vous demander de me donner la liste des pilotes qui ont participé au Grand Prix du Brésil.
Des lettres, il y a dans le Scrabble.
Mais effectivement, je vais vous récompenser en vous attribuant un nombre de points en fonction du nombre de points que le pilote remporterait si on mettait son nom sur le plateau de Scrabble. Ah,
c'est bon. Oui, mais où? Alors, sur le plateau?
Le Scrabble français.
Oui, mais où
Scrabble
sur le
français.
Plateau?
Il y a que des mots comptes simples. Je rajoute d'accord. Deux contraintes. Oui, parce que ce serait trop simple. La première contrainte, c'est que vous ne pouvez citer que des pilotes qui sont dans le quintet mou. Parce que quand même, il faut essayer de raccrocher un petit peu. Donc il faut citer que des pilotes qui sont dans le quintet mou. Et vous aurez possibilité, si vous le souhaitez, de faire un mot compte double, enfin en tout cas d'avoir un coefficient multiplicateur, si à partir du nom vous arrivez à me donner un autre mot, et dans ce cas-là je ferai un calcul avec les points que vous auriez au Scrabble, etc. Vous n'avez rien compris, je vais vous donner un exemple. Par exemple,
il y en a pour trois quarts d'heure.
Attends, j'attrape la corde là.
Par exemple, Ayrton Senna. Bon, bah son nom c'est Senna.
Oui. C'est, oui, c'est ça. C'est
jusque là, vous me suivez.
Oui, jusque là, on te suit.
C'est trop fort.
Bon, alors Senna, j'ai pas cherché combien de points ça lui rapportait au Scrabble si on mettait Senna, mais je pense qu'il y en a pas mal. Hein. Bon, ah oui, ça doit être 5. Ah oui, ça lui fait 5 points. Bon, bah par exemple, vous me dites Senna. Bon, imaginons Senna, il était au Grand Prix du Brésil, vous remportez 5 points. Mais si en plus vous me donnez un nom qu'on pourrait faire avec Senna, eh ben je vais voir le nombre de points qu'on peut faire avec ce mot-là, et du coup je fais un coefficient multiplicateur. C'est très simple. Vous allez comprendre.
Oui, si, j'ai compris.
Vous allez comprendre en jouant.
J'ai compris, mais putain.
On va commencer parce que c'est toi le plus brillant, Gus Gus. Donc, est-ce que tu peux nous citer un pilote qui, selon toi, est dans le quintet mou? Et évidemment, il y a un nombre d'erreurs hein, qui est prédéfini. Hein. Vous avez le droit à. On va faire 7 droits à l'erreur.
C'est peut-être passé.
On va faire 2 droits à l'erreur. Hein. On va faire 2 droits à l'erreur. Et donc, Gus Gus, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, le nom des pilotes, le nom d'un pilote qui est dans le quintet mou, qui te rapporterait le plus de points au Scrabble?
Alors, qui a fait une course bien dégueulasse? Verstappen.
Tu me dis Verstappen. Et sache que Verstappen n'est pas dans le quintet mou.
Bah non.
Ouais.
Ah, le quintet mou.
C'est dommage, hein.
Ah merde, ah, j'ai rien compris. Oui. Merde.
Putain, ah, le nul.
Le reste, j'ai compris.
Non, mais là, c'est
reste,
pas que t'as.
Mais, pas ça.
Mais c'est pas que t'as pas non, compris,
c'est
là, c'est que t'as pas écouté.
D'écoute.
Oui,
c'est un déficit d'écoute. Je fais amende honorable. Je te prie de m'excuser, Dino, parce que je me suis endormi au milieu de ton monologue. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que ça arrive.
Eh ben oui.
Non, j'ai les droits croisés, c'est faux. Hein, c'est...
Bon bah c'est pas grave, tu as grillé un droit à l'erreur, il t'en reste plus qu'un. J'aurais peut-être dû en donner 7. Bilo, peux-tu nous donner le nom d'un pilote qui, d'après toi, te rapporterait le plus de points au Scrabble? Qui est dans le quintet mou, évidemment. Je précise mou, M-O-U. Comme pas dur. Bilo?
Bilo fait moins de malin hein, quand il s'agit pas de citer les 23 victoires de Nico Rosberg. Quand c'est pas un jeu textbook, je veux dire. Alors, attends, qui a fait
Allô, Bilo
Ah, mais attends, mais on l'a perdu, Bilo, là.
Ah, on n'entend pas.
Non, on ne t'entend pas, Bilo.
Il y a un message sur notre chat interne.
Ah, il dit Hülkenberg.
Alors, il nous dit Hülkenberg.
Ah, moi, je ne l'ai pas
mais
entendu.
C'est bizarre.
Hein. Moi, ça t'entend pas, c'est... Moi, j'entends pas, ça ne compte pas, hein, je veux dire.
Ça va être sympa, cette émission, on va traduire Bilo.
Et bizarrement, pour une fois, il va dire
va
des conneries.
On va remplacer tous les lots par TE.
Alors, Bilo, tu nous dis Nico Hülkenberg. Parce que je rappelle qu'on dit Hülkenberg, hein, pour les gens qui se respectent. Eh ben, sache que Nico Hülkenberg est effectivement dans le quintet mou. Il est exactement 12e dans notre classement. Il a reçu 4 votes positifs et 30 votes négatifs. Il a donc un score total de moins 26. Autant dire que tout le monde s'en est branlé les couilles. Ce qui n'est pas facile de branler une couille. Vous le noterez. Non, Bibi, c'est pas comme ça qu'on branle une couille. C'est... oui, c'est plus comme ça, effectivement. Bravo, Bibi. Et donc, sache Bilo que de là où tu nous entends, et on pense à toi Bilo, sache Bilo que Hülkenberg t'aurait ramené 20 points, quand même c'est pas mal, 20 points, au Scrabble. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que tu peux nous faire un autre mot avec les lettres d'Hülkenberg, et je te dirai si ça rentre ou si ça rentre pas. Cool. Alors cool, il n'y a aucune lettre de commun entre cool. On traduit ce que dit Bilo hein, pendant qu'il essaye de revenir.
Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est avec toutes les lettres du nom, donc avec toutes les lettres d'Hülkenberg, qui doit former un autre nom de pilote, c'est ça ou un mot?
Oui, voilà, tout à fait, c'est ça.
Mais quoi, un mot ou un autre nom?
Un autre mot. Ah. Ça peut être un mot de la langue française ou...
Ah oui, il demande avec toutes les lettres ou seulement avec quelques-unes?
Non, avec quelques-unes. Si tu veux faire N, bon bah ça marche. Ah, les boulets qu'on oublie de se taper quand même dans cette émission, c'est terrible. C'est chier à faire un jeu, etc. Et...
Ouais.
Genre les gens qui connaissent rien en F1, bon, en plus derrière... Il faut leur expliquer les règles du Scrabble.
Alors, il propose urne.
Bilourne.
Ils sont gentils, mais...
Il propose urne. Marc, il aurait pu mettre burn aussi,
urne.
Mais...
c'est vrai. Corrige, non, mais ça coûte pas. Mais attendez. Non, mais la première réponse, c'est urne. Alors, moi, je dis que c'était pas un mot qui est dans l'officiel du Scrabble. On est d'accord que pour officier, tu as l'officiel du Scrabble.
Oui, tout à fait. Oui, j'ai l'officiel du Scrabble.
Oui.
Alors, dès que j'ai mon site internet, je note le mot urne et je ferai le coefficient multiplicateur ultérieurement. C'est mon site internet plante, enfin mon officiel du Scrabble plante. En tout cas, sache que c'est un... Ce qu'on va faire, on va faire plus simple, si tu me donnes un mot, je double les points. Donc là, tu m'as donné urne, allez hop, ces mots comptent double, donc du coup, ça te fait 40 points.
Non mais c'est nul.
Ah oui, c'est nul, je sais.
On va doubler forcément à chaque fois.
C'est
pas forcément.
C'est un jeu de dino, quoi. Tu t'attends ou quoi?
Non, pardon, j'avais oublié. Non, mais j'ai plus l'habitude, depuis que les... j'ai dit Björn enculé qui nous met sur le chat, Bilo. Excusez-moi, il me déconcentre. Mais non, j'avais oublié, je suis désolé. Voilà. Depuis qu'il a arrêté les endives, ça m'était sorti de la tête. Voilà.
Alors, ah, ça y est, j'ai retrouvé mon logiciel. C'est bon. Donc, tu nous disais urne. Eh ben, sache que urne, ça te rapporte 4 points. Donc, en fait, ça te fait un coefficient multiplicateur de 4. Donc, du coup, tu passes de 20 à 80 points.
Bah, il va falloir me faire mettre sup, c'est en plus pour.
Oui. Vous inquiétez pas, j'ai un tableur Excel, rien n'est automatisé.
Ah, si Excel,
moi, je vais dire Ericsson.
Tu lui dis Ericsson, et si Ericsson, il faut décrocher. Oh là là, même moi j'ai honte.
Elle va être longue cette émission.
Je m'excuse. Eriksson, il est effectivement dans le quart des mous. Il a marqué 7 points positifs, 51 points négatifs. Il est à moins 44. Faut-il y voir un complot? Je ne sais pas. En tout cas, il est 13e. Et là aussi, c'est suspicieux. C'est Marcus Eriksson. Et donc, Marcus Eriksson. J'ai pas réussi à respirer pendant cette phrase. Et sincèrement, je suis admiratif. Marcus Eriksson rapporte 10 points au Scrabble. Donc, et maintenant, à toi de nous faire un mot, s'il te plaît, Bûcheur.
Je propose,
avec les mêmes lettres que Eriksson.
Je propose les noces, N-O-C-E-S.
Tu proposes noces, N-O-C-E-S, et non pas comme nonos.
Va chercher Dino.
Ça te rapporte 7 points. Alors, en fait, ça fait un coefficient multiplicateur de 7. Donc, du coup, tu es à 70. Bravo, Bûcheur.
Et bravo, tu es dans l'air du temps, Bûcheur, en proposant les
bonnes. Oui.
Bah, oui.
Oui, c'est vrai. Que de sous-entendu. À toi, Gus, maintenant que tu as compris les règles. Et donc, je rappelle, c'est le quartier mou. Mou. M-O-U. Mou. Ce qui te rapporte, je crois, de mémoire, 5 points.
5 lettres. 5 points, oui, tout à fait. Ah bon, Sainz.
Alors, toi, t'as trouvé le mot.
C'est une dédicace.
Eh ben. Carlos Sainz
n'est pas dans le quinté mou.
Ah putain, non, il va être dans le quinté mou. Il va être dans le quinté mou.
Ah bah, c'est sûr qu'il va pas dans le quinté plus.
Quinté mou, Carlos Sainz. Il est soit dans le quinté plus, soit dans le quinté moins.
Ouais,
et
bon,
donc, du coup, je suis
éliminé, Gus.
Ouais, c'est pas grave. C'est un jeu de merde.
Enfin, tu peux quand même. Alors, sache, Gus, que je t'accorde donc 0 points. Mais tu peux appliquer un coefficient multiplicateur. Si tu me donnes effectivement avec le tirage de Sainz un mot.
J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que si je fais un Scrabble, j'ai un, on va dire, on rajoute des points au coefficient multiplicateur.
Si t'as un Scrabble, tu reviens dans la partie, mais avec zéro droit à l'erreur.
D'accord. Alors j'avais Nazi en 5 lettres.
Tu avais Nazi en 5 lettres. Voilà, sachez-le, hein, l'anagramme de Sainz, c'est Nazi. C'est peut-être pour ça que notre ami Scannibal.
C'est pour ça qu'il avait une 55. C'est pour ça qu'il a pris une 55 aussi.
Oui. Putain, la vache, mais le complot SS, quoi. Donc, sache en tout cas que le mot nazi te rapporte un coefficient multiplicateur de 14. Voilà, donc 14 fois 0, ça fait toujours 0. Mais en tout cas, tu es à nouveau dans la course. Tu as récupéré un droit à l'erreur. Bilo.
Alors, Bilo est en train d'écrire. Là, il propose Sirotkin.
Alors, Sirotkin, c'est bizarre cette émission sans Bilou, mais avec Bilou. Sirotkin, de son petit prénom Sergei. Sergei Sirotkin. Alors, Sergei Sirotkin, lui, on va tout de suite se mettre d'accord, il est évidemment dans le quinté mou. Hein. Tout le monde s'en est battu les couilles. Ça fait très mal de battre une couille, ne le faites pas chez vous. Sirotkin a marqué 0 points dans le quinté plus, il y en a 15 dans le quinté moins. Donc il est, faites les calculs, moins 15, il a fini 16e de la course.
Il aurait fallu multiplier le total par le nombre de points marqués par le pilote au quintet, quoi. Enfin, c'était trop simple.
Oui, alors j'y ai songé, mais j'ai pas eu le temps de développer la macro. Et donc du coup, sache...
On salue la belle macro, d'ailleurs.
Oui, j'ai failli la faire, mais j'ai pas osé.
Moi, j'ose, je m'en fous.
Sirotkin, notre ami Sergei Sirotkin, même dans ce classement il n'est pas visible, ça te rapporte 13 points. Donc 13 points qu'on cumule à tes 80, ça fait déjà 93. Mais il y a peut-être un coefficient multiplicateur sur ces 13 points, à condition que tu nous donnes un mot que tu peux écrire avec les lettres de Sirotkin.
Ben, il a déjà proposé l'adjectif noir au pluriel, donc N-O-I-R-S.
Noir.
Noir,
il
n'y
a aucun fil conducteur sur tous les...
Noir, ça te fait un coefficient multiplicateur de 5, puisque ça te rapporte 5 points. Voilà, comme quoi les nazis rapportent plus de points que noir. Voilà, c'est le destin. C'est très moche ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça nous fait 65 points, que je rajoute à tes 80, tu es donc à 145 points. Bravo, Bilo, tu nous rejoins quand tu veux. Bûcheur.
Je vais proposer Van Dorn.
Tu proposes Van Dorn. Et tu as raison de nous proposer Van Doorn, parce que Van Doorn, avec 78 points positifs et 5 points négatifs, a un score total de 73 et il est 6e du quartet plus ou moins, donc c'est le premier du quartet mou. Voilà, donc tu as eu très chaud, mais en tout cas, voilà, Van Doorn effectivement est dans le classement et notre ami belge te rapporte la bagatelle de 13 points.
Alors maintenant, il faut que je trouve un bon à faire avec.
oui, Burn, ça ne marche pas, Vurn non plus.
Mais si je change de lettre, ça fait bite, non, ça marche pas, ça non plus.
Ça c'est Allô. Bilo.
Allô.
Ah Bilo, on t'a retrouvé.
Allô.
On t'entend
pas. Putain ça. Ah si c'est bon, j'avais pas mis le son.
On t'entend.
Bonsoir à tous.
Laisse le son Bilo. C'est trop fort là.
Bon, c'est fait chier, il a réglé son micro pendant une heure, le mec il...
Voilà, là, c'est bon.
Merde, et ça revient nickel.
Non mais ça va être nickel, allez, du coup, parce qu'on l'a remis, avec le coefficient multiplicateur, soit des coefficients multiplicateurs de partout dans les SAV de la F1, hein, y compris dans la réalisation des podcasts.
Très bien.
Bah si, je vais faire le mot vanner, V-A-2-N-E-R. Avec Van Doorn. Arrête de tripoter ton micro. Vanné. Bilo,
pardon.
C'est sale en plus.
Ouais, puis ça me casse les oreilles.
Je voulais parler dans mon gros micro.
Non. j'ai arrêté. Depuis Gus Gus, j'ai arrêté. Le mot vanné te rapporte un coefficient multiplicateur de 9, ce qui nous fait un total de 117 points que je rajoute à tes 70. Ça fait donc 187 points. Et Gus Gus, c'est à nouveau à ton tour.
Je vais dire Stroll.
Tu dis Lance Stroll, et c'est gratuit toujours de citer Lance Stroll comme les ouais, mecs. Enfin,
c'est un honneur de le mettre dans le Quintemou. T'as habitué sur
voilà. Il est sympa comme son papa.
Voilà. Eh ben, tu fais bien de le citer parce qu'effectivement, il est dans le quintet mou. Je dois te dire quand même que t'as chaud au cul parce qu'il est dernier du quintet mou avec 0 points positifs, 91 points négatifs. Il a donc un score total de moins 91. Il est 18e de la course, il est 15e du quintet plus ou moins. C'est Lance Stroll. Et notre ami Lance Stroll te rapporte la bagatelle de 6 points. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal.
Oui, mais j'ai un Scrabble puisque je vais proposer le mot troll au pluriel.
Bah oui, c'est évident.
Ah, monsieur joue dans la facilité.
Il a
donc,
raison.
C'est 6 points.
Oui, après, d'un autre côté, j'ai vu les deux forages qu'il a fait juste avant.
Ah bah, ouais, je rattrape juste qu'il assure, hein. mes conneries. Alors, si tu veux...
Avec le mot troll, tu poses effectivement un Scrabble. Alors, tu vas récupérer à nouveau un droit à l'erreur.
Bien sûr, évidemment.
Oh,
mais tu sais,
tu peux enchaîner, dis-nous.
Je sais comment tordre les règles pour toujours revenir.
Ah, mais complètement. Tu sais, sans doute que l'animateur est prêt à ce qu'on torde les règles. Donc...
Il attend que ça, même.
Vendu. Ça te fait donc 6 points. Avec un coefficient multiplicateur de 6, ça nous fait 36. Donc jusqu'à présent, tu as 36 points. Bilo, toi, tu en as 145. Et Buchor, tu en as 187.
Ouais. Ouais.
On représente.
Je calcule mes points en même temps. Je vérifie qu'il n'y a pas Anguille sous roche. Gasly, on l'a dit ou pas?
Non.
Gasly, on ne l'a pas dit.
Parce qu'avec le Y, à mon avis, ça doit bien payer. Donc je dis Gasly.
Tu nous dis Pierre Gasly, et tu as raison. Pierre Gasly est 14e du quintet plus ou moins. Il a 3 points positifs, 50 points négatifs. Vous l'aurez compris, il a un total de moins 47. Voilà, j'ai rien d'autre à dire en plus. Il a fini 13e de la course. Mais sinon, il est français, donc tout le monde adore. En plus, il est normand, donc ça c'est très bien. Alors, Pierre Gasly... au Scrabble, te rapporterait, effectivement, tu l'as dit, il y a le Y, mais il te rapporterait 9 points.
Quoi? Mais le Y, c'est 10 points déjà.
Non, pas dans mon Scrabble à moi.
Ton Scrabble, t'as pas les bons,
Bah ouais, t'as pas les bons trucs. Attends. Y, c'est 10 points.
T'as le Scrabble anglais là. Voilà.
Le Y, c'est 4 points, messieurs.
Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, mais t'es sérieux? Attends. Jean Scrabble.
Je me fie au site langue-o-chat.fr, spécialiste de la tricherie au Scrabble. Il me dit 4 points.
Spécialiste.
Si on peut pas faire confiance aux tricheurs.
Si en plus les sources sont toutes pourries, qu'est-ce que tu veux,
Ah non, mais il a raison, putain.
C'est le W qui vous dit.
Ouais, non, mais il a raison.
Je change d'un propos.
Ah non,
alors,
tu peux pas
fermez
changer.
Vos gueules. Fermez
tu
vos gueules.
Rien, on a rien à foutre.
Fermez vos gueules. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux répéter, il a raison.
Qui a dit ça?
Toi.
C'est pour un jingle. Ah. C'est pour un jingle.
Il a raison. Bilo a raison. Je vous prie de.
Non, c'est pas grave. Je remplacerai.
Bilo, tu as raison. Bravo. Je te présente mes excuses pour avoir douté de ton honnêteté qui n'a jamais été mise en doute au cours de ces 10 années au SAV. Donc,
ouais. Bon, après, elle n'a jamais été revendiquée non plus. Hein. Est-ce que tu peux nous donner un autre mot voilà.
Ben, j'avais Lys, du coup. Lys
et YS. C'est original comme choix. Je serais pas parti sur ça, mais. Lys, ça te fait un coefficient multiplicateur de 6. Que je multiplie donc. Nous en sommes à Gasly, donc ça fait 9 points, c'est ça? 9 x 6.
54.
Je fais mes tables. 9 x 6, 54. Je vérifie avec Excel, hein, parce que c'est pas que je te fais pas confiance, mais je ne te fais pas confiance. Ça fait effectivement 54, et au total, tu es à 199 points, mais tu es toujours derrière Bûcher. Hein. Sinon,
moi,
il y a une
je veux pas rallonger, mais sur la page Wikipédia comptage de points Scrabble, le Y, il est dans la section 10 points.
Ah, mais moi, je me fie à langochat.fr tricher au Scrabble.
Oui, non, c'est vrai, c'est une source fiable. C'est vrai.
Ah
c'est vrai.
Ouais.
D'ailleurs, Donald Trump a ce site dans ses favoris, paraît-il.
Ça valait quelque chose.
Il connaît suffisamment de mots pour jouer au Scrabble, Trump?
Non, il joue avec juste les lettres. Il joue une lettre par une lettre. Il n'a pas compris encore les règles. Mais il progresse. Hein. Il a compris qu'il pouvait toutes les mettre une par une. Qu'il n'était pas obligé d'en garder.
Ah.
Bûcher.
Je vais proposer.
C'est beaucoup de pilotes. Hein.
Oui, je vais proposer Grosjean.
Tu nous proposes Grosjean.
Et c'est le crash.
C'est un bon choix d'enculé, ça.
C'est un bon choix d'enculé, comme dit Bilo. Effectivement, Grosjean, c'est 59 points positifs pour 6 points négatifs. C'est un total donc de 53 points. Il est 7e au quintet plus ou moins. Il est donc dans le quintet mou. Tiro Toto, dans le quintet mou. C'est même limite un vomi, mais retenu. Donc ça va. Il est 7e dans le quintet plus ou moins. Notre ami Romain Grosjean, enfin je dis notre ami, mais on ne connaît pas personnellement, même si on l'aime bien, te rapporte 16 points. Voilà. Alors la question, c'est vas-tu réussir à multiplier ces 16 points avec un anagramme d'enculé, comme dirait notre ami Bilo.
Je vais dire le mot comme ton humour gras, GRS.
Merci d'avoir stigmatisé mon humour et pas mon physique. Donc du coup c'est un coefficient multiplicateur de 5. 16 x 5, ça nous fait un total de
80,
je crois. Wow, bravo Bilo.
Tu ne Bilo donnes même aussi. Pas le meilleur tirage, c'est bizarre.
Je n'ai pas préparé cette émission.
Il y a un célèbre inconnu qui nous propose Negro avec le gros Jean.
Le mec qui fait des macros Excel, il dit non, mais je veux pas me faire chier à trouver le meilleur tirage à chaque fois.
Alors, sache mon cher Gus Gus qu'avec Jargon, par exemple, tu aurais eu 15 points. Avec Jazron, voilà. 14 points. Avec Rajon, 8 points. Avec Ronja, 8 points. Onagre, voilà. 8 points. Songera, Organe, Égaron, Orange, Agréon. Voilà. Donc en tout cas, tout ça te permet d'avoir un joli score, Bûcher, puisque tu en es à 267 points. Ça sent la victoire. Gus Gus, pour la moitié du geste.
Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Ricciardo.
Tu nous lis, Ricardo. Eh ben sache, Gus Gus, qu'avec Ricardo, et c'est vrai que c'est un très bon choix. Dans l'optique d'un Scrabble, avec mon code double, etc., c'est un très bon choix. Sauf qu'il n'est pas dans le quintet mou. Voilà.
Oh non. non, mais j'ai fait en connaissance de cause, j'ai pris un... Alors c'est dommage parce que j'avais quasiment un Scrabble, j'avais raccordé.
Je dis raccordé. Alors je vais quand même aller. J'ai prendre du temps parce que dans cette émission c'est important de prendre du temps.
Je préviens tout de suite nos auditeurs. Vous vous sentez quand même qu'on n'est pas couché. Hein. Bah encore vous pouvez déconnecter et reprendre une fois que le podcast sera publié. Nous on est obligé de rester. Marc, on est obligé.
Donc en tout cas, sache que ça te fait un joli coefficient multiplicateur de 14.
Fois 0.
Hein, quand même.
Fois 0.
14 fois 0, ça fait 0. Hein. Mais c'est quand même pas mal. Et effectivement, Ricciardo était un bon choix parce que je crois que. Ah non, Ricciardo, c'est 14 points. Donc tu aurais pu faire Alonso fois Alonso. Voilà, soit Alonso, du coup. C'est pas mal.
Ah, c'est beaucoup parce que Alonso est tellement.
Large.
Voilà. Ah, du melon,
hein. Il est plié de la tête.
Bilo, bilo, bilo.
Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Mais que voulez-vous?
C'est Dino, qui voudrait ta réponse.
Ah, c'est déjà à moi?
Oui.
Oui, c'est à toi. Oh, on dirait le moteur de la Red Bull.
Ouais. Attends, qui c'est qu'on n'a pas fait avec des bonnes lettres, là? Hartley.
Hartley. Ah, Hartley. Pour son avant-dernier Grand Prix, Brandon Hartley a marqué 22 points positifs pour 10 points négatifs. Il a donc 12 points. Il est dans le quintet mou, il est exactement 8e. C'est une bonne réponse de ta part, Bilo. Le pari du Y finit par bien marcher. Voilà. Sache que Hartley, ça te rapporte 13 points. La question, c'est quel mot et quel coefficient multiplicateur tu vas pouvoir appliquer à ces 13 points. Oh, sacré moteur Renault. Je recycle les vannes. C'est terrible, j'ai honte.
Ah putain, là, franchement. Moi j'en ai pas beaucoup, j'ai T en fait.
Je vous propose T comme un T. C'est un coefficient multiplicateur de 6. Et c'est bien, parce que ça fait 6 fois 13. C'est-à-dire. Attends, je calcule de
13.
Je retiens 12. Ça fait effectivement 78. Bravo. 78, tu as 277. Bouchard, tu es à 267. On va dire que sur ce coup-là, tu as possibilité de gagner la partie, puisque je crois qu'il nous reste un seul pilote dans le quintet mou. À toi, Bouchard.
Alors, du coup, je vais dire Pérez.
Julie, Pérez, ce bon vieux Serge. Ce bon vieux Serge, il a marqué 6 points positifs. Mais au regard de son nombre de points négatifs, je peux te dire désormais, Bouchard,
oui, vas-y.
Qu'il est dans le quintet mou, puisqu'il a marqué 4 points négatifs. Hein, et il est 9e de notre quintet plus ou moins, il a 2 points. Voilà, c'est moyen. Tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, non, à part ceux qui ont voté pour lui ou contre lui. Donc, en tout cas, il est dans le quintet mou. C'est la fin du jeu, hein, déjà, je peux te le dire.
C'est la fin du jeu. Ça
et Sergio Pérez te rapporte 16 points. Donc déjà, rien qu'à partir de là, tu peux considérer que tu as gagné, Bouchard.
Alors, je me permets une petite réclamation, parce que selon Wikipédia, dans la version francophone...
Encore un qui a rien compris, qui a rien écouté.
Quoi ?
Selon le site des tricheurs du Scrabble, c'est 4 points.
Ouais, mais bon, ça va pas, parce que normalement, c'est 10 points, les Grecs. Hein. Et le cas aussi, c'est ça là.
Ah ben c'est sûr que ça avait pris autre chose que Gasly et Hartley juste pour jouer les Y.
Il fallait anticiper chez Arbilo que moi je suis un branleur et que du coup je vais pas m'embêter à vraiment faire le décompte, que je vais sur un site de tricheur. Après les sites de tricheur ils trichent avec le Scrabble, j'y veux rien.
Tu pourrais prendre un vrai Scrabble chez toi, t'en as pas?
Non, je suis jeune.
Mais il sait pas lire.
Il sait pas lire.
Et donc Bouchard a posé avec les lettres qui composent le nom de Pérez.
Ben Père. P-E-R-E.
Oh oui, un papa.
Je fais ah ça, oui, je croyais qu'il avait.
J'ai cherché un truc avec le Z, mais.
Il est pas Z, Z, E, c'est pas un mot ça.
Sinon, il y avait peut-être le Ré.
Peut-être.
Tu sais, comme le Ré de chaussée, R-Z.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui, putain, bien wesh.
Ou le Ré
bien wesh. Waouh. Et le mec parle derrière. En tout cas, avec Pérez et donc du coup Père, tu as un coefficient multiplicateur de 6, ce qui te fait Bûcheur, et tu vas être très content. Hop, ce qui te fait. Quand je fais les bonnes cellules, ça marche
153 points.
Ça te fait 363 points. Tu es le grand vainqueur de ce dans le rétro.
Allez, première victoire dans un coup d'œil dans le rétro.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est
ça, en 10 ans, ça se fête.
Alors, je dois te dire que cette victoire peut être retirée sur tapis vert.
Oui, ouf.
Bon, s'il y a des réclamations, je suis prêt à refaire les calculs.
M'en fous,
la victoire du Bûcheur me rappelant la victoire de Raikkonen après des années à perdre, je suis tellement ému que voilà, je ne réclamerai pas en sa défaveur.
Ah, c'est tellement pas Renault. En tout cas, voilà. En tout cas, bravo messieurs, hein, parce que vous avez été plus rapide. Moi, je comptais 1h30 sur cette partie de l'émission.
Bon, on a juste fait 1 heure.
Non, moi...
On est à 53 minutes d'enregistrement.
C'est et on mal. On a fini le quinté mou.
Eh oui, bien vu.
On n'a rien à dire sur le quinté mou.
Ah oui.
Regardons quand même.
Attends, qui est dans
le quinté mou?
Alors, du coup,
tous les pilotes qu'on a cités.
Je vous refais la synthèse du quinté mou. On fera ensuite le quinté plus et le quinté moins. Mais le quinté mou, nous avons en 6e position Van Dorn. En 7e, Grosjean. En 8e, Hartley. En 9e, Pérez. En 10e, Magnussen. En 11e, Sirotkin. En 12e, Hülkenberg. En 13e, Ericsson. En 14e, Gasly. Et en 15e, comment il s'appelle? Lance Stroll. Est-ce qu'il y a l'un de ces membres du quinté mou sur lequel vous voulez revenir, sachant que je ne vous demanderai pas de faire un anagramme avec votre phrase, en comptant le nombre de points ou ce genre de choses.
Anagramme, voilà. Donc, c'est pas un jeu, mais... Furel, comme le travel, mais voilà.
Juste sur un truc que j'ai appris après la course, d'ailleurs, c'est qu'en fait, Gasly, à un moment donné, avait la consigne de laisser passer Hartley, qui avait des pneus plus tout neufs, etc., et qu'il ne l'a pas laissé passer. Il a dit « il a qu'à prendre la place lui-même ».
Voilà. Oui, et puis il avait cette justification incroyable de dire de toute façon, on ne sait pas pour la victoire, c'est pour la 11e place, donc on s'en branle.
Oui, c'est ça, oui.
On s'en branle la couille,
ouais, comme on s'en branle.
L'expression consacrée ce soir.
Et que disant que de toute façon, il était à plus de Pérez qui était le 10e était à plus de 30 secondes devant lui, donc il y avait aucune chance que Hartley même avec des pneus neufs puisse aller chercher Pérez. Donc c'était vraiment je pense qu'il remet surtout en cause le pourquoi de la consigne à la base, quoi. Et que il est dit.
Oui, puis je pense qu'il y a un contexte aussi entre coéquipier chez Toro Rosso. Voilà, Hartley il y a quelques grands prix a mis en doute. Je crois que c'est toi, Gus, qui avait essayé d'en parler lors d'une émission. a mis en doute une excuse qui avait été avancée par Toro Rosso sur le fait qu'il y avait que Gasly avait
des
souffert
dommages.
D'un problème, voilà, de dommage sur la voiture.
Moi, j'ai de lancer un truc.
Évidemment, Hartley avait sous-entendu que c'était faux. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi ça dans cette situation-là, de règlement de compte entre pilotes, comme de temps en temps il y en a en Formule 1.
Ok. Non, c'est ouais. En fait, c'est vraiment.
Merci pour cette transition, Bio.
Non, mais ce quinté mou est vraiment pourri, en fait. J'ai rien à dire sur aucun des pilotes. Il n'y en a aucun qui
est.
Tu voudrais dire que pour une fois, les gens ont voté correctement?
Oui, oui. Ben, moi, je n'ai jamais douté de leur capacité à voter correctement. D'ailleurs, pensez à ma parole lorsqu'il faudra choisir le fait marquant, s'il vous plaît.
On a eu combien de votants, d'ailleurs, Dino? Qu'on remercie toujours.
J'ai essayé de trouver le nombre, mais on a eu plus de 80, je crois. Enfin, pas loin de 80.
Merci pour cette précision.
Ok, alors on a précisément des points au Scrabble avec des totaux faux. On est incapable de donner le nombre de votants.
J'en peux plus. Mais quel escroc. Mais quel escroc.
Mais quel branle sacoche, quoi, sérieusement.
Je connaissais pas l'expression.
Non, mais moi j'anime. Moi je fais pas l'organisation. Il y a une rédaction derrière. Moi je suis la partie émergée de l'iceberg.
Oui, émergée.
L'iceberg.
T'es le Christophe Barbier du SAV, c'est ça. Avec ta écharpe rouge.
Merci et merci à Shinji de nous transmettre des informations fiables, hein, puisqu'il a eu 71 votants.
Merci.
Bah voilà, bah on est pas loin de 80.
Ah ouais, ouais, en effet.
J'ai fait un chiffre à la louche. C'est bon, les gars. Ah, cette mauvaise foi, c'est terrible. Donc, en tout cas, messieurs, on revient pas plus sur le quintet mou.
Bah non.
Non.
Non. En tout cas, voilà. On salue en tout cas l'inventeur du Scrabble, voilà, dont on ne dira pas le nom, par respect pour la famille. Et donc du coup, nous allons revenir sur le quintet moins et le quintet plus. Donc on va remonter en fait le quintet moins et le quintet plus en parallèle. Voilà. Dès que quelqu'un aura fini de manger son yaourt.
C'est compliqué.
Mais non, c'est pas compliqué. On va faire le dernier du quintet moins, puis le dernier du quintet plus, puis ensuite le quatrième du quintet moins, le quatrième du quintet plus.
Ah, comme tu vas ça, faire comme ça, toi.
Oui, je fais comme ça.
Ping-pong, ping-pong.
Oh, putain.
Et donc, qui est, selon vous, dernier du quintet moins? Donc, dernier du quintet moins, je rappelle que c'est le 16e.
Je dirais
que le premier du quintet moins, le vainqueur, voilà,
c'est
le dernier.
C'est là où ça devient compliqué. Est-ce qu'il avait des pneus tendres médiums ou ultra qui sont les pneus tendres de l'année prochaine qui sont les médiums? On dirait ça, tu vois, on dirait Christophe Malbranque 2010.
Alors ce que je peux te dire, c'est qu'il a du mal avec le bleu.
Moi j'ai du mal avec toutes les couleurs personnellement, étant
oui, c'est vrai.
Bon, moi je dis Alonso.
Et donc c'est qui?
Il aime pas les Schtroumpfs, donc.
Donc toi tu dis Alonso, Bûcher?
Oui. Parce que je suis le seul à avoir à me lancer.
Eh ben, effectivement, c'est Fernando Alonso. 0 points positifs, 161 points négatifs. C'est un total de moins 161. Il est 16e de nos classements. Il est le dernier. Hein. Donc, même là, il est le dernier, en fait. Le dernier du quintet moins. Même là, il peut pas gagner. Il a fait 17e la course. D'ailleurs, il était, je crois, bon dernier de la course. Il est 16e de notre quintet, plus ou moins. C'est triste de la part d'Alonso. Au Brésil, en plus. Son pays. Enfin, presque.
Voilà.
Presque, c'est bon. Il a été coéquipier qu'un Brésilien.
Bah justement, c'était un fils de pute de coéquipier d'un Brésilien. C'est pas
là. Voilà.
Oh, c'est le mec qui dit ça, qui joue les raquettes, qui nous disait bien ouais, il y a 2 minutes quoi. C'est Papy se rebelle en fait.
Ah, ça c'est Jackie. Pardon.
Non mais Alonso, pas bon quoi. Enfin, je sais pas.
Bah, il a une McLaren non plus.
Alors, ouais, mais il est derrière Vandoorne quand même.
D'après le bilan de McLaren, je vais voir parce que c'est étonnant, mine de rien comme résultat. Son pit stop a duré 12 secondes, ce qui a empêché toute chance de progrès pour le reste de la course. J'essaie de traduire en mauvais français hein, l'anglais. Et du coup, bon, il a évité un abandon parce que l'équipe a empêché que ça se transforme en abandon pendant le truc. Bon, voilà, c'est l'excuse qui est avancée.
Le truc, c'est que quand tu entends McLaren de dire qu'ils ont maintenu Alonso en piste, j'ai presque envie de dans ma tête, ça se traduit par on l'a maintenu super fusion.
Ils ont pas réussi à le faire abandonner. Je sais pas si l'impression de dire l'inverse, tu vois.
Il est à quand d'excuses
McLaren.
SOS, on n'a même pas réussi à arrêter sa course, qui nous fout la paix.
Le problème de McLaren, c'est que leurs excuses avancent et eux, ils reculent. Donc, comment voulez-vous que... Voilà.
Ce type...
Il s'encule.
Et si tu avances, si tu recules, comment veux-tu qu'on s'encule? Oui, de toute façon, il y en a bien un qui va le dire.
Tout de suite, tu me dis, on s'encule. Non.
Hey, Club 153 Power.
Hey, et tous en pull et on s'encule. Hein. J'avais aussi tous en fil, on s'enfile, tous en manche et on s'en manche. J'en ai d'autres, on se poile. Voilà, tout à fait. Tout en boîte et on s'emboîte. J'en ai une cinquième généralement comme ça.
Il y a tous à poil et on se poile.
Ouais, mais c'est, sans ce poil, c'est moins, tu vois, c'est...
Bah, on rigole, quoi.
Moins évocateur. Oui, bah, oui, bah, justement, voilà. Il faut toujours un mec qui a...
Bon, revenons à la formule.
Ouais, on parle F1 un peu.
Non, ça sert à rien, la F1.
Les endives, là.
Non, parce que, ouais, on glisse de plus en plus vers les endives, ça me stresse. Mes deux dernières émissions m'ont traumatisé.
Tu verras, le chiconfort est génial.
Ouais, la dernière émission n'a pas existé, elle n'est pas encore publiée.
Et
oui, officiellement, elle n'existe pas.
Je te rappelle une chose, Dino. La dernière émission, on l'a fait en deux parties, elle est deux fois, je me suis endormi.
Oui, on l'a même décidé une bite sur son front.
Oui, mais il y avait beaucoup d'alcool.
On voulait écrire
non, mais
ton
pas.
Nom.
Mais pas. Pas.
Bon, alors Alonso, voilà.
Rien d'autre à dire sur sa course.
Mais non,
on sort merde. Il dégage rapidement, et puis voilà.
Non, mais il s'est quand même battu jusqu'à la fin. Enfin, voilà, il a fait une belle course quand même.
On s'en branle.
Il n'a pas respecté les drapeaux bleus, etc.
Allez, c'est bon, achevons, quoi. Enfin, achevons la carrière de Fernando et passons.
Oui, n'achevons pas les endives.
Ouais, arrêtons de tirer sur l'ambulance.
Alors, en parlant d'ambulance, on était dans le dernier du quinté moins, on va passer au dernier du quinté plus. Qui, messieurs, d'après vous, est le dernier du quinté plus? Donc le cinquième de nos classements.
Je vais dire Vettel.
Non, mais du quinté plus, Bûcheur.
Oui, mais le cinquième, donc je dis Vettel.
Non, mais Vettel dans le quinté
oh
plus.
Non, Vettel, il a fait une course indigente.
C'était pas terrible, Vettel. Moi j'aurais dit.
Ah oui, putain, oui, non, il finit 6ème. J'aurais dit Raikkonen.
Ouais, non, c'est Zola, Raikkonen ou Ricciardo.
Raikkonen.
Ou Leclerc. Non, j'aurais dit Leclerc.
Leclerc, il est mieux classé.
Il va être adulé.
Il est sur le podium, Leclerc.
Par la plèbe.
Là, je dis Raikkonen.
Alors, on a un Raikkonen, on a un Leclerc, Gus.
J'en ai aucune idée, je suis pas loin de...
J'ai un casino.
Je te conseille de miser sur le bon cheval, Cabré.
Lidl, ouais, Lidl. Parce que c'est là que j'ai fait mes courses pour mes cookies, donc.
Ah ouais, Lidl. Pas mal.
Bah, c'est le truc le plus proche de chez moi, parce que j'ai pas de voiture et que mon vélo n'a pas un porte-bagage conséquent. Alors, voilà, pour transporter les.
Ah oui, je voulais.
Du coup, t'as un caddie à fleurs ou pas?
Alors, non,
ça nous intéresse, les gens vont savoir.
Chers auditeurs, bienvenue dans le SAV de la F1 qui ne parle pas de F1.
Attends, non, mais c'est très important à raconter. Je suis allé chez Lidl avec des sacs Intermarché, on va regarder un peu de travers.
C'est pas les sacs, je te rassure. C'est toi.
Oui, bon, probablement.
Non, mais petite parenthèse.
Non, on n'a pas le temps.
Non, mais je suis vraiment. Non, mais juste sur.
Le mec, il contrôle rien de l'émission et là, boum!
Je veux plus, sérieux. Vas-y, je veux
plus. Non, mais Alonso, sur Alonso.
Oui, Alonso, bah, qui a encore une fois gêné comme il fallait les Ferrari dès lors qu'elle lui prenait un tour, quoi. Mais évidemment, s'en tire sans aucune sanction. Comme
si,
d'habitude.
Si lui et Vandoorne ont été pénalisés, non?
Si.
Ah oui, oui, pardon.
McLaren ont été
la première fois, alors. Enfin, voilà, il se trouve que, encore une fois,
il
choisit ses victimes, ce brave Fernando. Donc, voilà, on sent un mec qui cherche les ennuis, quoi. Voilà.
Donc, on ferme cette parenthèse, on revient sur le dernier du Quintet Plus. Gus Gus, tu es revenu parmi nous.
Oui, pardon, excusez-moi. Un petit Ricciardo, du coup.
Tu lui dis un petit Ricciardo, et ben, sache que ça commence par un R. C'est et effectivement, même. Il y a un I dedans. Il y a un A aussi. Il y a un.
J'avais Ricard, du coup, quand même.
C'est Rinclair. C'est Charles Rinclair.
Tout à l'heure, t'as dit de bien miser sur le bon cheval cabré, donc c'est forcément une
Ferrari. Voilà, enfin, il y en a un qui écoute cette émission. Il y a effectivement Kimi Raikkonen, 225 points positifs. Il y a quand même un gros gap hein, pour le Quintet Plus, puisque on est à 225 points positifs pour 10 points négatifs sur un total de 215 pour Raikkonen. Rappelez-vous, Van Dorn, qui était 6e, il était sur un total de 73 points. Donc le Quintet Plus est vraiment distingué, tout comme le Quintet Moins aussi, c'est clairement distingué. Kimi Raikkonen, le pilote Ferrari, qui finit sur le podium, 3e, mais qui effectivement a une course un peu à l'image des Ferrari, décevante.
J'aimerais déjà exprimer ma surprise face à un message sur le chat de BK qui nous dit depuis le début vous ne parlez pas de F1. Je comprends pas d'où ça sort. Je suis un peu démuni face à ce genre de commentaires.
On va dire que depuis là.
Non mais en fait, on reconnaît quelqu'un qui n'écoute généralement que l'heure et demie ou l'heure trois quarts d'émission et coupe à la fin. Là, dès qu'on met la fin de l'émission au milieu, il y a plus personne.
Au début, là, on l'a vu au début. Tant mieux.
Ouais, oh. Ouais, ça a un peu débordé sur le milieu.
Attends, on sait pas. L'émission n'est pas finie, on sait pas où ça se situe le milieu.
Oui. Fais-moi confiance, je vais tout faire pour que ce soit au début. Alors on a Zilda sur le chat qui nous dit que Raikko fait un super grand prix et qu'il méritait un top 3 au Quintet Plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement?
Super grand prix, n'exagérons pas. C'est un bon grand prix. C'est la performance d'ensemble de Ferrari décevante, mais Raikkonen fait quand même un bon grand prix parce que il a quand même réussi à doubler Bottas, si je ne m'abuse. Bottas qui était un sacré os à ronger, mine de rien. Et il a résisté à Ricciardo en fin de course. Donc voilà, sa course aurait pu être meilleure s'il avait pu dépasser Bottas plus tôt dans le premier relais. Et là, il aurait pu aller chercher Hamilton, je pense, avec la stratégie décalée. Donc c'est ça qui est dommage. Mais en soi, Raikkonen, c'est bon. Après, c'est pas super non plus. Voilà, parce que justement, il a tardé à dépasser Bottas. Il ne l'a fait que dans le deuxième relais.
Oui, parce que de mémoire, les trois premiers, ils sont un mouchoir. Ils sont quelques secondes à peine, les trois premiers à l'arrivée.
Mais oui. Mais oui, ils sont...
ouais, après, ils sont quand même plus ou moins... Hamilton est plus ou moins en économie et Verstappen est une voiture endommagée.
Oui. Oui, mais juste ah bah, c'est ce que
Des déclarations de Mercedes, il est en économie.
Ouais, non, mais Mercedes, c'est gros con lorsqu'ils font des déclarations. Moi, c'est vraiment pour bien rabaisser. Non, mais Mercedes, dès qu'il faut rabaisser l'adversaire.
Mais t'as pris du rap de Polenta à la cantine, c'est pas possible.
Non, mais attends. Les déclarations de Mercedes, mais pour dénigrer l'adversaire, c'est assez formidable. Genre, il était en économie. Non, il est pas en économie. Je veux dire, t'as Verstappen qui lui remonte dessus assez régulièrement, alors sans pour autant le.
On y reviendra.
Mais voilà, il est pas en économie. Bref.
Tu monopolises la parole, Bilo, quand même.
Quelles que soient les circonstances, là, je viens de trouver le truc. Raikkonen finit à 4 secondes 7 d'Hamilton. Donc, effectivement, comme tu le disais, s'il avait réussi à doubler Bottas plus tôt, il aurait certainement pu gratter ce temps-là, quoi. Et être plus proche d'Hamilton si ce n'est le doubler avant la fin.
C'est le podium inversé de Austin. Austin, on avait Raikkonen, Verstappen, Hamilton,
ouais,
et là c'est
dire, l'inverse.
Waouh. Jean-Michel est inutile.
C'est inutile, mais moi j'aimais bien.
Oui, mais c'est inutile.
Excusez-moi, j'ai rien à dire sur la course de Raikkonen.
Bah oui, mais.
J'ai été par celle de Vettel.
Bon, on peut passer au suivant, du coup.
Ouais, enchaîne.
Non, j'ai pas envie.
Non.
Bon, allez, on passe au quatrième du Quintet Moins, messieurs. Qui, selon vous, est quatrième du Quintet Moins, c'est-à-dire juste derrière Alonso au classement?
C'est-à-dire qu'il a battu Alonso?
Non, il a été moins bon derrière.
C'est pas par Alonso.
Oh, ben, je vais dire Magnussen.
Alors, tu veux dire Magnussen, c'est un choix courageux.
Ben oui, surtout qu'il a pas été dans le Quintet Moins, lui, dans le Scrabble.
Il était dans je crois qu'on dit le Quintet Mou, mais c'est pas grave.
Le Quintet Mou.
J'ai pas de souvenir, non, qu'il était pas dans le Quintet Mou, lui.
Hashtag ambiance de merde. Donc, Bilo Gus Gus.
Oui, donc, je sais même plus qui c'est qui est dans le Quintet Moins. Bah attends, je regarde. Hein. Ah bah non, faut pas que je regarde. Je sais pas.
Non, Vettel.
C'est du Vettel.
Et Et non, non, pas du tout. Non, non. Sachez que nous avons découvert dans cette émission qu'il y avait une sorte de pentacle dessiné sur sa voiture. Enfin, je dis une pentacle, c'est plutôt une croix gammée, puisque c'est Carlos Sainz Junior, 0 points, moins 63 points. Il est dans les échappements de son prédécesseur, son futur prédécesseur chez McLaren. Il a fini 12e de la course, 17e du quintet plus ou moins. Voilà, le pilote Renault qui est donc aux abonnés absents sur cette course, messieurs, qu'en pensez-vous ?
Grand espoir de la 12e place.
Oui, merci.
Je salue Scali.
Qu'est-ce que j'en pense ? Suivant.
C'est fort à propos du coup.
Bah, j'ai rien à dire, on l'a pas vu, il a fait une course. Ah si, par contre, il a donné un bon coup de roue à Hülkenberg, mais.
Ah oui, c'est vrai, au premier tour.
Oui.
Mais le geste, voilà. Moi je comprends.
Alors
pas que le geste
n'ait
pas
été. Public, hein.
Ouais, pour moi le geste, il méritait une enquête. Hein. Parce que clairement, c'est un coup de roue à ce moment-là. C'est pas il perd le contrôle, la voiture glisse, il donne un coup de roue.
Non mais alors, il y a le précédent Perez à Singapour et il faut se rappeler que notre ami Charlie Whiting avait dit non je crois pas qu'il l'avait fait exprès. Voilà. Et là encore plus entre coéquipiers, tu penses bien que Charlie Whiting, il a pas pu penser une seule seconde que Carlos Sainz il avait fait volontairement un coup de roue à son coéquipier. C'est son coéquipier. Non, mais... C'est pas possible, c'est un coup de vent.
Excuse-moi de te reprendre, dis non, mais Charlie Whiting il ne pense pas
à tout. Quoi, avant c'était Rosberg.
Donc, bah à part ce geste-là, qui est quand même, mais à mon avis, Hülkenberg ou c'est en tout cas chez Renault, ils vont quand même lui dire, tu recommences pas. Surtout quand même qu'il y a un championnat constructeur qui est très important pour Renault, qui est serré.
Non, ça va.
Non, il n'est pas si serré que ça. Hein.
Bon, ils sont tranquilles. Bah là, je crois qu'ils sont officiellement quatrième ou pas.
Officiellement non, mais bon, il faudra que As fasse un doublé et que ou un truc dans le genre.
Ah oui, 24 points d'avance sur Russell, donc
oui, donc ça va, c'est tranquille.
Donc non, effectivement, mais voilà, c'est. Bah après, tu comprends pourquoi c'est Hülkenberg qui reste chez Renault et c'est Sainz qui est foutu dehors.
Ouais. Et après, globalement, les Renault étaient hors du coup ce week-end, quoi. Donc voilà, sauf voilà.
C'est quand même, alors sur la forme du moment des Renault, c'est quand même soit inquiétant, soit ils font le truc habituel, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le développement à mi-saison. Mais quand même, la dynamique de Renault, je trouve en ce moment, est pas très positive. Alors, est-ce qu'ils sont pas en train déjà de regarder depuis quelque temps, peut-être depuis l'annonce de Ricciardo vers 2019. Voilà, moi, ça me semble quand même. Bah ouais, mais moi si c'est ça, je trouve quand même que c'est hasardeux, parce que quand même 2019, même s'il va y avoir des changements, il y a quand même une certaine forme de continuité avec cette saison, et il faut quand même essayer de poser les bases, même s'ils vont changer visiblement complètement le moteur pour la quatrième année consécutive. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, moi j'apprécie pas vraiment la fin de saison de Renault, et j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe chez Renault.
C'est préoccupant, surtout que c'est en Russie où il y avait une interview d'Alain Prost où il disait on est revenu en arrière sur les réglages, ça marche mieux, bon, on n'a pas forcément beaucoup de développement, mais on a retrouvé du rythme avec cette voiture et ses développements, et bah ça ne marche pas partout. Ça a marché au Mexique, ici ça ne marche pas du tout, et c'est. Encore une fois, c'est préoccupant pour une écurie qui a largement les moyens d'être à la quatrième place. J'ai pas refait le calcul qu'on fait maintenant depuis le début, depuis la Belgique, où on rajoute les 59 points de Force India pour voir s'il serait devant. Là, tu rajoutes 2, donc ça ferait 107 points. Force India serait derrière, a priori. Non, je sais pas calculer, attends. 60, 107 points. Si. Il serait derrière de 7 points. C'est-à-dire, tu battrais Force India de 7 points, une écurie qui a eu des difficultés financières majeures au moment de l'année, avec les moyens d'un constructeur. C'est-à-dire, non seulement les moyens, mais aussi le fait de faire ton moteur pile pour le châssis. Enfin, c'est pas du tout au niveau, quoi. Enfin, ouais, par rapport aux ressources, c'est pas du tout au niveau.
Après, Renault, ils partent avec un handicap, puisqu'ils ont qu'un pilote et demi. Hein.
Puis ils ont le moteur Renault.
En plus. Ah ouais, un Renault Ferrari l'année prochaine, c'est trop sympa. Un Renault Honda, tu sais, pour bien accueillir Ricciardo.
Non, mais moi, je m'inquiète pas encore pour l'instant pour Renault. Je m'inquiéterai si jamais ils ne progressent pas significativement l'an prochain. Et auquel cas, ça veut dire qu'ils se sont foirés, même en arrêtant le développement de cette année. Donc je leur laisse le bénéfice du doute.
Et donc, messieurs, revenons dans le Quintet Plus. Voilà, le quatrième du Quintet Plus, désormais. Qui est-ce, selon vous ?
Leclerc.
Hamilton.
Ricardo. Alors, j'ai un Leclerc.
Hamilton.
T'as dit quoi, Bouchard ? Hamilton.
Hamilton.
Ouais. Et toi, Gus-Gus ?
Leclerc, plutôt.
Eh bien, vous avez cité Leclerc, vous avez cité Hamilton, mais vous avez oublié l'homme qui est passé complètement inaperçu pendant cette course. Il a marqué 363 points positifs, 121 points négatifs, avec un total de 242 points. Sur ma droite, il pèse 54 kilos et une casquette de marque Red Bull. C'est Max Verstappen !
Est-ce que les données de poids sont aussi fiables que les données du Scrabble ?
Complètement, j'utilise le même site.
Non, mais celui-là il est dans mes favoris, le site des gens qui trichent sur leur poids.
Donc c'est Max Verstappen qui est quatrième de notre Quintet Plus. Voilà, alors, avec
non, mais
à noter quand même, c'est le pilote qui a le plus de points positifs dans le classement. Plus que ceux qui arrivent en tête. Même, il a quasiment 100 points de plus que la personne qui remporte, le pilote qui remporte le Quintet plus ou moins. Mais il a aussi 120 points de moins en négatif. Donc voilà, ce qui explique ce score et je pense le caractère mitigé.
Ouais.
Mitigé.
Les gens sont tiraillés, là, partagés.
Ben après,
non,
faut
mais sa course est assez anonyme. Enfin, il n'y a pas grand chose à rajouter, quoi.
Anonyme.
Non, alors, bien wesh, Philo.
C'est pas grave.
Ah. Non, oui, d'accord. Ah, d'accord. Parce que putain, j'ai pas percuté.
On l'a pas vu, quoi. Enfin.
Non, mais le problème, c'est de savoir si.
Bah, Ocon l'a pas vu. Je pense que c'est Ocon qui a voulu voter.
C'est la famille Ocon qui vote en masse, selon le Stone.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les points négatifs que s'est ramassé Verstappen, c'est pour son attitude en piste ou pour son attitude dans le paddock, dans les stands après la
course. Oui, ce serait intéressant de savoir.
Ce serait intéressant de savoir parce que voilà.
Moi, ce que je propose, messieurs, sur le cas Verstappen, c'est qu'on se concentre sur sa course et qu'on évoque un peu plus l'incident avec, pour faire un peu de teasing, l'incident Verstappen-Ocon. Lorsqu'on viendra à parler d'Ocon, qui
est premier du
quinté moins. Plus.
Non mais soyons honnêtes, à mon avis, il est tellement bas au compte qu'il est en train de trouver du pétrole là, dans le quinté moins.
Non mais sur la course de Verstappen avant cet incident et même après d'ailleurs, la course de Verstappen est excellente.
Ah oui.
Parce que honnêtement, il part cinquième. Alors sa voiture est probablement la plus rapide en conditions de course sur ce week-end, mais c'était pas non plus une ultra domination. Il part cinquième et il double les quatre pilotes devant lui quand même, et même Hamilton à deux reprises. Donc il fait quand même cinq dépassements décisifs. Il a un rythme, il a un super rythme pendant toute la course, et même après l'incident où il a une voiture apparemment abîmée, c'est une super course parce que c'est très rare qu'à la régulière un pilote qui part cinquième remonte comme ça jusqu'à la première place à coup de dépassement qui plus est, sans l'aide de quoi que ce soit. Donc franchement sa performance est vraiment géniale.
Et surtout la façon dont les Red Bull ont réussi à faire tenir leur super tendre.
Mais il fait 35 tours sur son premier relais avec les super tendres usagés.
Mais
et Ricciardo lui-même fait 39 tours.
Et je sais pas si vous vous souvenez, mais au début, donc c'est lui, je crois, qui est derrière Hamilton, qui dit ah mais Lewis commence à glisser. Et il dit moi c'est nickel quoi, les pneus tout est bon quoi. Effectivement, on voyait sur les ralentis, on voyait l'image, on voyait que les pneus d'Hamilton commençaient à cloquer. Ceux de Verstappen étaient nickel. Hallucinant. Vraiment bluffant, quoi. Et on s'y attendait pas. Avoir les Red Bull.
Non, pas du tout.
aussi avoir un aussi bon rythme de course.
Bah, surtout, je pense qu'on attendait plus les Ferrari. Enfin, c'est-à-dire que l'attention en début de course, elle est quand même centrée sur les Ferrari et les Mercedes. Les Ferrari partant avec des pneus tendres, on se dit que c'est plutôt là que va se passer la course. Et en fait, très rapidement, on comprend que les Ferrari, elles vont rien faire dans la course et que les vrais agitateurs de la course, c'est les deux pilotes Red Bull qui vont vraiment emballer la course, et notamment Verstappen qui effectivement fait un début de course tonitruant avec des dépassements et une maîtrise complète de la course. Sauf à un moment donné où il y a eu moins de maîtrise.
Mais Ricardo aussi a quand même fait un très excellent début de course parce qu'il partait 11e, il faut le rappeler. Hein.
Oui, on reviendra sur Ricardo. Mais
j'ai du mal avec l'expression rythme de course. Enfin, Verstappen était le plus rapide sans qu'il n'ait intrinsèquement la voiture la plus rapide. Voilà. C'est juste qu'au bout d'un moment, ben, au bout de 10 tours, 20 tours, ben, les autres bouffaient leurs pneus et pas Verstappen. Donc, ils étaient moins ralentis par l'usure des pneus. C'était pas la voiture la plus rapide dans les conditions optimales, mais c'est la voiture la plus constante. Si tu compares avec les Ferrari, ils ont réussi à faire la course en étant toujours un cran plus tendre dans la gamme de pneus par rapport aux Ferrari. Ce qui fait que de suite, ça fait une différence à partir du moment où tu arrives à maintenir tes pneus.
Mais même au début, hein, le premier quart de course. Même le premier, enfin les 10 premiers tours, on le sent quand même plus rapide que tout le monde en fait. Alors qu'ils sont, on n'est pas encore en phase du jour de pneus quoi. Enfin, on n'est pas en phase dans le plan de. C'est l'impression qu'ils donnent.
Parce que c'est des pneus qui ont fait la Q2. Faut se rappeler. C'est des pneus les pneus du démarrage qui ont des tours d'attaque, même s'ils sont pas à 100%, ils ont des tours d'attaque dans la caboche et ils sont plus du tout neufs. Hein. Ils sont déjà attaqués. Donc ça compte mine de rien.
Alors j'ai dit une bêtise hein, tout à l'heure, il ne double qu'une fois Hamilton, j'avais cru qu'il avait doublé au premier relais, donc il ne double qu'une fois, mais bon ça reste quand même une très, très belle performance, et du coup c'est très intéressant de la stratégie de Red Bull, parce que du coup le fait qu'ils arrivent à bien gérer les super tendres, ça leur a permis au deuxième relais de ne pas chausser les médiums qui sont les moins bons pneus, mais de chausser les tendres qui tenaient le coup.
Quand j'ai vu ça continue à arriver à la mi-course avec les super tendres, je me suis dit la suite de la stratégie est évidente. S'ils arrivent à faire tenir les super tendres au moins la moitié de la course, tu te dis derrière les tendres ils tiennent au moins la moitié de la course, donc c'était une évidence. Et quand je voyais les autres chausser les médiums, j'ai fait mais ils sont bien partis Red Bull.
Et puis même en dehors des problèmes, parce que alors chez Ferrari il y a des problèmes visiblement de capteurs sur la Ferrari de Vettel notamment, qui l'ont obligé à visiblement faire les réglages lui-même, donc ça l'a visiblement ralenti. Et du côté de Mercedes, on a reporté même pendant le direct une inquiétude sur les températures moteurs avec une casse visiblement au niveau de l'échappement, ce qui obligeait Mercedes à jouer sur certains réglages. Je pense que même sans ces problèmes là, il y avait quand même une vista une manière de gérer la course du côté de Red Bull qui pouvait lui permettre, je pense, de se battre à la régulière pour la course avec des Mercedes et des Ferrari en bonne forme et sur une stratégie pneumatique à peu près équivalente.
La même vista qu'il a eue aux États-Unis et au Mexique. Hein. Ça fait trois courses que la Red Bull est très performante en course.
T'es en train de rincer le moteur Renault, il se prépare pour l'année prochaine. Messieurs, revenons dans le quintet moins avec l'homme du milieu de notre quintet moins, le troisième du quintet moins, le middleman, le quintet mou du quintet moins. Ça lui correspond bien, le quintet mou du quintet moins. Alors, quels sont vos pronostics
Qui nous reste?
Il reste qui en fait en quintet moins? Vettel, Ocon.
Côté quintet. Vettel, Ocon et. Bottas? Bottas.
Ah oui, Bottas.
C'est que je dis
Bottas. Je dirais
Bottas, il fait de la F1.
Bottas.
Il est pas en GP3. D'ailleurs, Bottas, c'est le seul nom de pilote que vous pouvez mettre sur un plateau de Scrabble.
Bah non,
ah, ça c'est Scrabble.
Non, c'est pas Scrabble, parce que Scrabble, tu n'as pas que 5 lettres. Enfin, tu n'as pas que 6 lettres.
Ah, bah Bottas non plus, alors.
Mais non, mais tu peux mettre Bottas, tu peux le mettre sur un plateau de Scrabble, parce que tu as le droit au verbe conjugué. Donc c'est le
ah, un vrai en français, voilà. D'accord, ok.
Oui.
Ah oui, tu bottas, oui, c'est du verbe botter.
Voilà. Voilà. Suivez un peu. Le mec, il joue jamais au Scrabble, quoi. Bon, allez, pas de suspense, avec 2 points positifs, 177 points négatifs. Je crois qu'il y a un hommage derrière ce 177 points négatifs. C'est effectivement Valtteri Bottas, un total de moins 175 points pour nos amis mathématiciens. Il a fini 5e de la course. Il est Lance Stroll de notre Quintet Plus, puisqu'il est 18e. C'est bien, en fait, pour le mec du milieu du Quintet Moins, le Lance Stroll, c'est bien. C'est Valtteri Bottas, le pilote Mercedes, qui a été fidèle à lui-même.
Ah oui, bah oui. Toujours. C'est-à-dire qu'il est lent et malheureusement, le fait qu'il se défende bien, bah, ça fait que ça empêche des luttes pour la victoire entre plus de pilotes.
Bottas, on dirait qu'il a sa motivation qui est déjà parti en vacances.
Oui, depuis 6 mois à peu près.
Après, c'est compréhensible. Hein. Il a passé les 6 derniers mois à être au service, d'Hamilton. Donc, c'est clair que c'est pas forcément très motivant pour une saison.
Hamilton qui a dit en plus avant le Grand Prix qu'il ne rendrait pas de victoire à Bottas.
Oui.
Donc, non, c'est vrai que là les mecs se disent déjà les régulières je peux pas gagner, mais en plus ils vont même pas me l'offrir.
Bah, disons que la seule fois où il a pu gagner la régulière, il aurait pu gagner la régulière cette année en Azerbaïdjan, ça a été aussi dû à des circonstances.
Une safety car. Oh, la Russie aussi, il pouvait gagner la régulière.
La Russie.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh là, oh là. Autant pour moi, j'avais complètement oublié ce Grand Prix de Russie. Mais oui, effectivement. Mais oui, c'est. Après, pour parler de sa course, il fait sa course, il fait le jeu de se défendre face à Raikkonen. Il se défend bien, donc il y a rien à dire. Quoi. Après, le rythme n'y était pas, quoi. Il se fait rapidement.
J'aime bien si tu prends le début et la fin de ton adversation pour parler de sa course, il y a rien à dire.
C'est ça.
Voilà.
Un bon résumé.
Non, mais déjà, quand la moitié de. Là, je suis en train de regarder le bilan de Mercedes, le communiqué. Quand la moitié de l'intervention, c'est un truc dégoulinant sur le bon travail de l'équipe et tout, grâce qui a amené le titre constructeur, tu sens que la course a été pourrie. Et effectivement, la course, bon.
Oui, surtout que là, c'est une course qui, mine de rien, l'enferme plus ou moins dans la peau du 4e du championnat, puisqu'il me semble que Raikkonen a renforcé sa position de 3e.
Ah oh mince, Raikkonen va devoir venir à la remise des prix.
Je crois qu'il va sans doute couler une bielle lors d'Abu Dhabi.
Mais même, il a assez d'avance.
Ah, t'es sûr?
Je sais pas, je demande. Après, c'est pas important, mais.
Ah, bah, mets un point d'interrogation verbal alors.
Il y a 14 points d'avance pour Raikkonen sur.
Ah, oui, donc ouais. Ça va. Ah, moi, j'ai 17. Hein. 17, faut qu'il se crache à Abu Dhabi, puis il ira pas en Inde.
17
enfin, il ira... ouais, j'ai... Ah non, 14, 14, c'est que je sais pas compter, oui, pardon.
14, et il y a 17 sur Verstappen quand même. Verstappen peut encore être 3e.
Ah, ouais.
Ah, merde, ouais.
Il peut, hein.
Il fait une très bonne. Non mais Verstappen fait une deuxième partie de saison qui est quand même assez
ouais, elle est exceptionnelle. Ouais. Bah, il est bon à chaque Grand Prix en fait. Il est très très bon à chaque Grand Prix. À part
c'est une saison moyenne, mais il était mauvais à chaque Grand Prix en début de saison et là il est bon à chaque Grand Prix en fin de saison.
Depuis le Canada, il est vraiment fort. Depuis le Canada, il s'est calmé, il a moins fait de fautes et après et maintenant que la Red Bull.
Il faut virer son père en fait.
Mais en ce moment, il y a plein d'articles qui vous savez, genre couverture de Newsmag, hein. Et si c'était lui, sur, est-ce que ce sera lui le prochain, alors, oui, généralement, c'est mauvais signe quand même pour les gens, parce que,
pour les nouveaux Zidane.
C'est ça, c'est Marvin Martin.
Oh, Non, mais après, très clairement, je pense que Verstappen et potentiellement Leclerc, même s'il faut encore que Leclerc se fasse sa place chez Ferrari, mais là, on tient sans doute l'un des deux prochains futurs champions du monde de la Formule 1, le prochain nouveau, quoi.
Tout à fait. Mais et j'y ai pensé aujourd'hui. Je pensais à Verstappen et je me disais, profitons du fait qu'il fasse encore des petites erreurs de jeunesse, qu'il soit encore tête brûlée, parce que le jour où il aura vraiment acquis de l'expérience, qu'il sera plus calme, il va faire très très mal. Ça peut être très chiant aussi. Ouais, c'est...
Après, il y a de la marge pour qu'il soit plus calme. Question,
je me pose vraiment la question de savoir si ce joueur arrivera vraiment. Est-ce que c'est un mec qui va pas rester?
Ah, il a 21 ans, ouais.
Entier,
il a le temps de mûrir.
Comme il est aujourd'hui. Ouais, mais il a depuis 3-4 ans, mine de rien.
Ouais, mais c'est encore jeune dans sa tête.
Enfin, c'est pas encore son moment. Normalement, on devrait pas parler de lui, mais bon.
Tu peux l'équipe dire, joue un rôle aussi. Hein.
Oui, l'équipe
l'envoie. Ça peut aussi changer. Hein. Là, il est, oui. il est dans une équipe qui se modèle sur son pilote phare. Et là, aujourd'hui, il se modèle un peu sur Verstappen et donc, du coup, il le conforte dans cette position-là. Je suis pas convaincu que chez Mercedes ou que chez Ferrari, on le laisse faire et on l'incite et on l'encourage comme ça peut être le cas chez Red Bull. Ce qui fait peut-être qu'il a tout intérêt à rester d'ailleurs chez Red Bull, où on fera avec son tempérament et au contraire on cultivera ça à l'image de ce qu'a fait Mercedes avec Hamilton.
C'est pas faux,
mais c'est bien. On a besoin.
On a tout dit sur ça. Sur la course de Verstappen, est-ce qu'on a tout dit juste sur sa course sans tenir compte d'un quelconque incident de course sur lequel nous allons pouvoir revenir?
Bah oui.
Quel incident?
Oui, je déduis que oui. Donc revenons.
Ah, mais j'étais en train de couper la mozzarella moi à ce moment-là.
Ah mais non, mais en fait on parlait pas de Verstappen, on parlait de Bottas.
Non, on parlait de Bottas.
Non, on parlait pas de Verstappen, c'est bien ce que j'ai dit. Oui.
Donc du coup, on a fait le tour de Bottas.
Et ça fait un grand tour à faire.
Oui.
Bah on l'a bien évité en fait.
Passons à son alter ego du Quintet Plus, le troisième du Quintet Plus, hein, l'homme du Quintet Mou du Quintet Plus, voilà, du Quintet Mou Plus, du Quintet Plus Mou, je ne sais pas, comme vous voulez, choisissez.
Rien médium, hein, qui sont les pneus les plus tendres.
Il a marqué 265 points positifs pour 8 points négatifs. Il a un total de 257 points. Il est à 12 points de la victoire dans le Quintet Plus. Mais qui est-ce?
Hamilton.
Ricardo.
J'ai un Hamilton. J'ai un Ricardo. Et j'ai un orgasme.
Bah non, c'est Hamilton.
C'est le cas.
Eh ben c'est Lewis Hamilton qui finit donc qui remporte la course et qui finit troisième de cette course. Voilà, qui marquera 4 points au classement. Alors autant le dire tout de suite, au classement du SAV, du Quintet plus ou moins, Lewis Hamilton est champion.
Voilà. Ah oui.
J'ai pas entendu. Oui. Fab était trop loin, je l'ai pas entendu.
Et félicitations à lui.
Oui, c'est très bien. Oui, sur la course d'Hamilton.
C'est une réussite beaucoup bien meilleure que celle que d'être quintuple champion du monde, mine de rien, faut le souligner.
Ouais.
Puisque c'est le vrai classement.
Oui. Donc pour vous donner les chiffres, hein, bon, on sait que normalement Vettel ne marquera pas de points sur ce Grand Prix. Hamilton en est à 70 points dans le classement du Quintet plus ou moins, et Vettel en est à 54. Donc les jeux sont faits. Les jeux ne sont pas faits par contre pour la troisième place, puisqu'on parle de la deuxième place, puisqu'on parlait de Max Verstappen. Max Verstappen est actuellement troisième avec 50 points. Donc il y a du suspense pour la deuxième place au Quintet plus ou moins lors du prochain Grand Prix.
Ouais, donc Hamilton champion.
Donc Hamilton champion, troisième, vainqueur du Grand Prix du Brésil. Quelques remarques, messieurs, sur cette course, cette victoire. Alors, je ne sais pas si c'est opportuniste, parce que je pense qu'une victoire... Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une victoire véritablement opportuniste, mais en tout cas chanceuse.
Cul bordé de nouilles.
Oui, totalement.
Oui. Arrête. C'est un coup monté. C'est évidemment un coup monté. Ocon, qui est le lieutenant à la solde de la marque à l'étoile, a bien préparé son coup. Voilà, c'est exprès qu'il a été relâché juste derrière le néerlandais gavé de potions magiques et qu'il a tenté une manœuvre impossible dans le virage 2. C'est très clairement, je veux dire. En plus, il est Sagittaire, ascendant Verseau, ce qui veut tout dire.
Oui, comme par hasard, ascendant Verseau.
Comme par hasard, mais évidemment, c'est ouais. Le hasard. Faites-moi rire.
Cette espèce de nazi, là. Oui, je t'aime, Bibiche. Bibiche est nazi, c'est pour ça que je dis ça. Je fais une petite parenthèse, ouais, excusez-moi.
Ah, mais Bibiche, en fait, c'est Cani.
Oui, tout à fait. Les poils en moins. Mais elle râle comme Scanny, elle bête comme Scanny, tout est identique.
Oui. Et tous nos voeux. Hein.
On peut reparler de Formule 1
Et non, c'est le principe de cette émission. Le principe ce soir.
Bah vas-y, parle-nous de Lewis Hamilton et de sa course, Bilou.
Non, mais c'est une course bien maîtrisée, parce que, bon, alors évidemment, grâce aussi à son coéquipier, mais voilà, il s'en... Il s'est pas envolé en début de course, je pense qu'aussi il a peut-être aussi géré ses pneus. Après, bah, il y a pas grand chose à dire, il a géré sa course. Quand Verstappen est remonté sur lui, bah, il a essayé de se défendre, mais il y avait pas grand chose à faire. Et puis après, bah, il a récolté les fruits de l'incident. Une bonne course, mais effectivement, victoire due plus aux circonstances.
Je trouve quand même, grâce à son coéquipier, moi je trouve que c'est un peu gratuit ce que tu dis, parce que on a vu des courses où effectivement Bottas faisait le bouchon. Moi j'ai pas eu le sentiment que Bottas faisait le bouchon. J'ai eu le sentiment que le rythme était serré devant et que dans la Formule 1 actuelle où il est difficile de dépasser et où on a devant une Mercedes avec une bonne vitesse de pointe, etc. Bottas a pas particulièrement fait le bouchon, mais c'est juste qu'il était pas possible de le dépasser pendant un certain temps. Et que le rythme était quand même assez serré. Voilà, moi j'ai vraiment pas eu le sentiment qu'il y avait un blocage de la part de Bottas pour.
Ah non, mais attention, je dis pas, quand je dis grâce à son coéquipier, je parle pas de faire exprès de bloquer, etc., ou de ralentir, je veux dire grâce à son coéquipier, par le fait que Bottas ait défendu sa position et qu'effectivement, à force de se battre face à Raikkonen et Vettel, enfin surtout Raikkonen, ben ça les avait ralentis.
C'est pas ça qui fait la différence et qui lui permet de gagner.
Ça lui permet de creuser le trou. C'est-à-dire que si Bottas se fait n'arrive pas à résister face à Raikkonen, on peut supposer que Raikkonen se bat avec Hamilton pour la victoire. Parce que stratégie décalée, etc. Oui, mais
la réalité, c'est que Raikkonen ne dépasse pas Bottas. Donc
oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que grâce à Bottas, qui lui a quand même permis de se construire un petit matelas de secondes d'avance, qui ont été décisives face à Raikkonen notamment. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que Bottas a ralenti exprès ou quoi que ce soit, mais ça a été une petite aide supplémentaire.
Comme le résume bon. Parfaitement célèbre inconnu sur le chat qui dit Bottas faisait pas bouchon, il était mauvais. C'est différent. Voilà.
Bah, là, c'est pareil, je suis pas d'accord. Bottas, il était pas mauvais. Parce que si tu dis que Bottas, il était mauvais, je crois que l'écart maximum entre Bottas et Hamilton dans cette phase de course, dans ce début de course, ne doit pas excéder 4 ou 5 secondes. Donc, on peut pas dire que Bottas, il était mauvais. Après, il se trouve que Bottas, il a aussi été placé sur une autre stratégie, de fonctionnement. Il a, semble-t-il, moins bien géré ses pneus, dans ses relais. Mais, enfin, voilà, il y a quand même des courses où l'écart entre Hamilton et Bottas a été beaucoup plus large et où Bottas a été plus ridicule. Là, Bottas, il n'a pas été mauvais sur cette course. Il est... Voilà, il gagne pas la course, mais il aurait pu la gagner, en fait. Quand on regarde un peu le scénario, on se dit qu'il aurait pu la gagner. Il lui manquait, je pense, un peu de performance, mais il était pas loin, quoi. En tout cas, sur le début.
J'ai pas reproché grand-chose sur la course de Bottas. Ce que j'ai dit sur la course de Bottas avant, c'était qu'effectivement, il se battait. C'était un peu dommage pour le spectacle, puisqu'on aurait pu avoir plus de pilotes pour se battre pour la victoire. Mais sa course est bonne dans la mesure où il défend sa position et en plus, ça aide son coéquipier indirectement.
Bon, et sinon, pour revenir à Hamilton. Bon, effectivement, une course. Moi, je reviens pas sur la course. Moi, le moment le plus impressionnant de la course d'Hamilton, c'est dans la cool room, je trouve. Enfin, ça fait.
Oui.
Étalage de toute la science de la course qu'Hamilton a acquis avec toutes les années. qu'il a eu du mal, hein, parce que Hamilton a quand même été chien fou un petit moment, hein, mine de rien.
Il a été Verstappen à une époque.
Voilà, mais c'est ça. Peut-être que Verstappen, du coup, elle a de, voilà, a de quoi voir venir un futur brillant, parce que. Parce que Hamilton, voilà, fasse une remarque pour dire, voilà, clairement à ce moment-là, t'avais rien à, t'avais tout à perdre et lui rien du tout. Il fallait que tu le laisses passer. Ça fait montre de l'expérience d'Hamilton et de la sagesse.
Et la manière de le dire. Oui. La manière de le dire, ce qui est impressionnant, c'est que pour le coup, on voit vraiment le quintuple champion du monde. C'est un patron qui part. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le prof qui fait la leçon à l'élève en lui disant, t'avais rien à gagner à ce moment-là. Et qui est vraiment, qui s'impose, alors qu'il a pas à s'imposer. Il pourrait très bien s'en foutre. Oui. Et ça peut être dans sa nature d'ailleurs. Là, vraiment, le mec s'impose.
C'est très assertif, ouais. C'est assertif, très affirmatif et c'est posé, quoi. Il dit son truc et Verstappen, il a rien à lui répondre, quoi. Verstappen, il a écouté, il a rien dit.
Et ça joue peut-être aussi dans le. On a vu la bagarre la semi bagarre. Et derrière, on sait qu'il y a eu une poignée de main dans le paddock entre Ocon et Verstappen sur l'incident sur lequel on va revenir tout à l'heure. Hein, je vous promets. On garde le meilleur pour la fin, évidemment. Mais oui, évidemment, ils se sont serrés la main dans le paddock. Et je pense aussi que les remarques d'Hamilton ont peut-être joué un rôle là-dedans en allant justement dans la tête de Verstappen, lui rentrer avec un peu d'autorité, l'autorité d'un quintuple champion du monde qu'il est maintenant, un peu d'autorité, le fait que oui, il a sa part de responsabilité assez importante dans cet incident.
Mais quand on dit poignée de main, ils ont peut-être fait un bras de fer, hein, pour savoir quelle est la manière.
Je trouve, je sais pas si Hamilton vraiment peut faire ce genre de remarque, il est pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire qu'on sait, on saura jamais, mais dans la situation de Verstappen, ça aurait très bien pu lui arriver. Il dit ça, mais c'est pas lui qui est dans cette situation-là, donc c'est un peu plus facile aussi de le faire remarquer.
Ah, c'est toujours plus facile de le dire après,
parce que sur le coup, voilà, t'es leader, t'as un retard inter qui s'est te doublé dans un endroit, voilà. C'est pas facile de...
On en reparlera,
bien sûr.
Bon, je pense qu'on a fait le tour de Lewis Hamilton. Ouais. Voilà. 10e victoire de la saison, quand même. Moi, j'ai envie de vous poser la question, juste rapidement. Est-ce qu'Hamilton peut battre Schumacher au niveau du nombre de victoires?
Je ne répondrai pas à cette question.
Ça dépend.
Est-ce que Lewis Hamilton est plus fort qu'un légume?
Envoie.
Non, mais ça pourrait être
encore les légumes, ça vous fait encore rire.
Disons qu'il a une bonne fenêtre de tir en ce moment. Il cartonne à 10 victoires en moyenne par année. Des saisons de... Voilà, après, si ça dépendra aussi de la Mercedes. Si la Mercedes.
Ça dépend pas de lui.
Ah, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça dépend pas de lui, ça dépend de Mercedes.
Mercedes est encore au top.
Mercedes et de la concurrence.
Voilà.
S'ils sont en top, oui, mais s'il y a une autre équipe qui est au top en même temps, ce sera plus compliqué.
Parce que.
Notamment si l'équipe d'en face a deux pilotes performants. Si le baquet à côté de lui change avec un pilote qui aurait des dents longues et qui aimerait bien dépasser les leaders des courses. Ou
Ocon.
Il a. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que si Mercedes domine, il peut enchaîner 12 victoires dans l'année et le record est pour lui. Si effectivement il est challengé, ça sera compliqué d'aller chercher plus de 6-7 victoires.
Et du coup, j'anticipe un petit peu sur le bilan, mais c'est une question qu'on n'a pas évoquée lors de la dernière émission, lorsque Lewis a été titré. Vous placez où, vous, ce titre de Lewis Hamilton sur la palette des 5 titres de Lewis Hamilton? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur et le plus maîtrisé?
Non. Non,
c'est
pour
difficile.
Moi, son meilleur...
J'aime pas
son
comparer.
Meilleur titre, pour
Est-ce
moi...
Que c'est comparable.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, dans la saison, dans son ensemble et la concurrence, l'aspect concurrentiel, je trouve que son titre le plus maîtrisé, c'est 2015. Maintenant, 2014, pardon, excusez-moi. Parce que 2014, j'ai pas souvenir de l'avoir fait d'erreur, en fait, en course. Et il est un petit peu au-dessus de son coéquipier, qui est Rosberg. Et voilà. Donc, ça me semble plus, Il me semble meilleur en 2014, mais après 2018, il n'y a rien à dire. Il fait aucune erreur de la saison. Mais il a aussi, pour lui, le fait d'avoir un coéquipier qui joue son rôle parfaitement face à une équipe un peu plus brouillonne.
C'est ça. Moi, j'ai du mal à comparer la situation dans laquelle il était en 2014, 2015 et 2016, où la concurrence était interne, avec 2017 ou 2018 et 2018, où la concurrence elle est
externe.
Voilà, elle est externe. Voilà. Merci. C'est le jeu des contraires.
Scrabble. Oui.
C'est esprit de contradiction, enfin de déduction. Oui.
Oui. Voilà, où la concurrence est autre, et c'est vraiment des situations compliquées. Clairement, le titre le moins maîtrisé, c'est 2008. Moi, j'en démordrais pas.
Ah bah oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Les deux font des saisons relativement brouillonnes, en tout cas loin de leur plein potentiel, que ce soit Massa ou Hamilton en 2008. Après, c'est une question qui m'importe peu. Là. Quelle est la saison la plus maîtrisée Le verdict, c'est que c'est lui qui est champion. Il n'y a pas photo. C'était lui le meilleur pilote cette année des deux prétendants au titre. Et c'était le plus régulier cette année. Dire encore une fois, où sont ses erreurs, quoi. Il n'y en a pas eu des masses.
Mais moi, c'est ça. C'est-à-dire que la réflexion que m'amène cette saison, moi, je pense pas que ce soit la plus aboutie ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qui est juste impressionnant. Alors après, c'est peut-être aussi le schéma Vettel aussi qui on a vu un pilote exploser en plein vol pendant cette saison et on n'a pas vu Hamilton. Donc peut-être que ça crée aussi ce sentiment que c'est la meilleure saison d'Hamilton chez certains. Moi, surtout, ce que ça manifeste, c'est que Hamilton, il est d'une régularité ces dernières saisons assez impressionnante. Alors aussi parce qu'il a le matériel qui lui permet de le faire et l'équipe, la structure autour de lui. Et du coup, pour les raisons que vous avez évoquées, notamment par rapport à la composition de l'équipe Mercedes depuis deux saisons, je pense assez étonnamment que son meilleur titre, c'est celui qu'il n'a pas gagné. C'est-à-dire, c'est celui de 2016. Je pense que sa saison peut-être la plus aboutie et la plus marquante, c'est peut-être finalement 2016 où il atteint ce pic de performance parce qu'il perd le titre finalement sur une casse mécanique et face à un coéquipier qui lui a été irréprochable sur la saison. Et en fait derrière, c'est il ne fait ni plus ni moins que répéter le même schéma dans un contexte différent, mais en 2017-2018 et face effectivement à un Vettel dans une autre équipe et un coéquipier moins fort, mais il répète en fait le même truc. Donc moi, je me dirais que finalement sa meilleure saison, c'est peut-être 2016.
Et oui, pour lui là. La Malaisie a été un tournant, je pense, dans la fin de sa carrière en 2016. Ça l'a vraiment sensibilisé sur la gestion de son matériel. Depuis, à chaque fois, il insiste plus comme il l'insistait avant pour aller chercher les victoires et pour dire bon bah je vais mettre le moteur en mode économie et je vais économiser parce que ça a été vraiment un traumatisme, je pense, de perdre ce titre. De cette manière, encore une fois, sans rien enlever à Rosberg qui a tout donné cette saison-là et dont le titre est mérité, je trouve. En tout cas, peut-être s'il n'est pas mérité sur cette saison, il est mérité sur 2014, sans en réécrire l'histoire et enlever le mérite du titre 2014 à Hamilton non plus. Mais Rosberg dans le duel méritait mine de rien un peu d'accessite.
Alors, on fera à un moment donné peut-être, je ne sais pas quand, mais peut-être un bilan de cette saison, sans doute à l'occasion des SAV d'or, ou pas. Passons, faisons déjà le bilan de cette course et passons, retournons dans le quintet moins avec le deuxième du quintet moins. Qui est-ce, d'après vous, que le deuxième du quintet moins?
Vettel.
Ouais, Vettel.
Gus, vas-tu te distinguer ou pas?
Non, Vettel.
Eh ben effectivement, Sébastien Vettel avec 2 points positifs, 201 points négatifs, soit un total de 191 points négatifs et 19e du classement. Voilà, deuxième donc de notre quintet moins. Vettel qui s'est lancé en deuxième position, qui avait raté déjà son départ pour le tour de chauffe, qui a pas mieux réussi son départ pour la course et ça a été le début d'une course où il a été plus ou moins inexistant et fade. Alors semble-t-il lié à des problèmes de dans sa voiture et des manipulations qui l'ont amené à pas être à fond, voilà. Mais en tout cas, course très décevante de Sébastien Vettel.
Non, Par contre, j'ai des images où il montre qu'il a réussi son départ du circuit. Donc, bravo à lui.
Ah, ça, c'est bien.
Bah, déjà, parce qu'il s'est pas fait, racketter par la mafia locale. Donc, c'est pas mal.
Cet homme est seul derrière son micro.
Mais c'est une dédicace à Shinji et à ses problèmes de four.
Ah, les fameux problèmes de four de Shinji. Il faudrait qu'il en parle à Saints. Bon, Vettel, je pense que vous n'avez pas grand chose à dire sur cette course. Je vais pas vous demander de faire la saison du quadruple champion du monde. On fera le bilan plus tard.
Oui, enfin, ce sera un bilan intéressant à faire. Oui.
Ce sera un bilan assaisonné.
Oui, oh, bravo. J'ai pas compris, mais bravo. C'est méchant et gratuit. Revenons dans le Quintet Plus. Pour voir le deuxième du Quintet Plus cette fois-ci. Qui est deuxième du Quintet Plus ?
Leclerc.
On a un Leclerc pour Buchor.
Du coup, c'est très serré Leclerc en aussi. Fait, parce que le troisième qui était Hamilton n'était pas loin déjà d'être vainqueur. Donc,
oui.
Je sais pas. Il reste qui en fait ? Parce que il reste.
Leclerc et Ricciardo.
Il reste Ocon, Leclerc, Ricciardo.
Oui, bon, Ocon, il va pas être dans le Quintet Plus, ça, hein, c'est sûr.
Ah, bah, c'est Ricciardo qui est deuxième.
Moi, je dis Leclerc.
Avec 258 points positifs, 0 points négatifs. C'est d'ailleurs le seul pilote qui n'a pas de points négatifs. Il a un total de 258 points, donc il a la deuxième place du Quintet Plus pour un petit point. Il finit à 11 points du leader. Il a du rouge sur sa combinaison. Il en aura aussi l'année prochaine. Ce n'est donc pas Daniel Ricciardo, mais Charles Leclerc qui termine deuxième. Il a fini septième la course, premier des autres. Voilà, il marquera 6 points. Voilà, Charles Leclerc qui doit être pas mal placé d'ailleurs au championnat du SAV. Je regarde Charles Leclerc.
Oui, plus c'est long et plus il est bas. Donc...
Non, parce qu'il n'est pas dans le bon classement. Charles Leclerc, il est pas sur mon écran. Il devrait y être. Il est sixième avec 43 points. D'ailleurs, il y a un beau match, hein, parce que on a au classement du SAV, en dehors du podium, on a Ricciardo qui est quatrième avec 44 points. Raikkonen qui est quatrième lui aussi avec 44 points. Et Leclerc qui est sixième avec 43 points. Donc là aussi, un beau match dans le classement du SAV pour le dernier Grand Prix. Je vais poser la question. Est-ce que, pour le coup, Charles Leclerc est bien payé de sa course ?
Oui, deuxième, c'est bien payé. Il fait une bonne course, mais fait deuxième, d'autres ont fait des meilleures courses que lui. Après, sa course est bonne. Enfin, il est tranquille, en fait. Il n'a pas à se battre.
Sa course souffre de manque de concurrence criant. Et le résultat est, somme toute, logique. C'est une course dans le sens original.
À la Rosberg. Oui.
Non, parce que c'est pas surprenant de voir Leclerc 7e arriver.
Oui.
Donc, tu peux pas dire que c'est non, une course à la Rosberg, c'est rappelle la définition, c'est le mec que t'as pas vu de toute la course, et quand tu vois les résultats à l'arrivée, tu le vois, tu fais putain, mais il est si haut que ça lui. C'est ça une course à la Rosberg.
En tant que représentant des créateurs de la course à la Rosberg, voilà, c'est une interprétation possible.
Non, toi tu comptes pas, de toute façon tu changes les définitions à chaque changement de vent, donc.
Pas du tout.
Il change les règles.
Oui. Ouais,
mais regarde, il est encore en train de changer les règles.
Leclerc a quand même joué la sécurité en termes de stratégie, parce qu'il est parti. Je trouve le parallèle avec la course de Verstappen est intéressant, parce que tous les deux ils font un premier relais en super tendre usagé de 35 tours, et là où Verstappen, lui qui joue la victoire, va passer des tendres pour finir la course sur 36 tours, lui Leclerc qui n'a pas grand chose à jouer va jouer la sécurité et passer les médiums. Donc c'est un peu le signe aussi dans la stratégie que la course elle est vraiment tranquille du côté de Leclerc.
Mais c'est surtout aussi que pourquoi il passe autre chose que les médiums, parce que quand il y a Grosjean qui trois tours avant lui a changé le s'est arrêté pour changer de pneu, il a chaussé les médiums, alors que Grosjean est clairement le l'adversaire direct de Leclerc. Donc oui. Sauber bien sûr qu'ils ont joué la sécurité, ils allaient pas prendre le risque d'une usure prématurée avec on sait jamais où des bulages etc sur les tendres, les pneus tendres, alors que le seul adversaire direct il est en médium. Donc en plus ils connaissent à peu près les rythmes, ils se disent ben on sait qu'on est aussi rapide si ce n'est plus en médium, on met les médiums, on se prend pas la tête hein.
Mais Leclerc Grosjean c'est le ventre mou de cette course, c'est la partie inintéressante de ce Grand Prix quoi.
Ah oui, c'est une belle performance des deux. C'est une belle performance des deux, 7e et 8e respectivement de Leclerc et Grosjean. Mais il s'est rien passé d'intéressant à leur niveau. Voilà.
On peut même pas mettre un jingle Grosjean quoi.
Non, parce que
tu veux un jingle Grosjean ?
Non, mais il a pas fait de conneries sur ce coup-là, donc tu peux
pas
mettre.
On va pas le mettre quand même. Pas le mettre.
Non, mais nous dans le SAV on a 40 jingles Grosjean. Moi, je peux te mettre tout ce que tu veux.
Ce genre de
proposition. On a des passionnés du jingle Grosjean dans l'équipe
privée.
Bon, voilà, après.
Bon, alors.
Passe à la suite.
Puisqu'on était sur Charles Leclerc, moi je vous propose, messieurs, de garder vraiment le meilleur pour la fin et de finir avec le Quintet Plus, avec le pilote qui a remporté le Quintet Plus, qui va marquer 8 points, qui est donc 4e du classement, et qui est Daniel Ricciardo, 271 points positifs pour 2 points négatifs, soit un total de 269 points. Il a fini 4e de la course. Je vous renouvelle la question, est-ce que c'est pas hyper bien payé pour Ricciardo que cette victoire, moi un peu surprise du Quintet Plus ou moins.
Ben,
c'est une victoire par défaut, je trouve un peu.
Ouais, c'est une victoire aux circonstances parce que Hamilton, il peut pas prétendre à la victoire. Verstappen ne prétend pas à la victoire. Donc Ricciardo,
il prime à la remontée puisqu'il part
premier. Ouais, exactement ça, c'est ça la remontée de Ricciardo qui fait pas de vagues, qui fait pas de bourdes en piste, qui est ultra propre, etc. Ben voilà, D'ailleurs, si je serais curieux de savoir la raison des 2 points négatifs qu'a eu Ricciardo. C'est par curiosité, c'est vraiment pourquoi la personne y a mis 2 points négatifs.
La comparaison avec
Verstappen. C'est le tour 37. Au tour 37, si tu veux, à un moment donné, au niveau du S de Senna, quand il est sorti sur la deuxième partie, en fait, il est généralement, il passe sur l'intérieur, mais sur le vibreur, mais vraiment juste, il lèche le vibreur, et là, en fait, il a mordu sur la ligne blanche. Et donc, du coup, ça méritait 2 points négatifs. C'est moi qui les ai donnés. Donc voilà, je te donne ma raison. C'est pour ça, en fait, c'est parce qu'il s'est un petit peu écarté la trajectoire.
C'est des conditions.
Non, pas du tout, moi je vote jamais.
Je sens que c'est toi.
Ah, voilà, t'es comme moi, tu t'emmerdes pas à faire le gagne plus ou moins. Mais non. C'est pas,
on
c'est
laisse
pas
ça
une
à
critique.
La plèbe.
Mais non, après c'est pas une critique, mais je serais curieux de savoir la raison des 2 points négatifs parce que il fait aucune erreur. Il fait rien qui peut, à mon sens, qui peut justifier de.
À mon avis, c'est un dentiste. Parce que c'est un mec qui verra jamais. Donc, il est jaloux.
Donc, oui, je pense qu'après, voilà, entre Prima la remontée et les d'autres pilotes qui ne prétendent pas à la victoire.
Ben, victoire. Alors qu'il a mis un plus 9 à Hülkenberg. Merci, Dino. Je sais plus d'où ça vient les blagues sur les dents de Hülkenberg, mais il y a un moment, c'était un sujet dans cette émission.
Oui, puis après on est passé sur les légumes, on a changé.
Alonso aussi beaucoup nous occupait ces derniers temps.
Alonso, attendez. Ah oui, mais celui-là il était champion il y a 12 ans, ça commence à dater quoi. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis ?
Mais d'ailleurs, c'est
pas de nouvelles. Donc sinon, Ricciardo.
Oui.
Vas-y.
En fait, je sais pourquoi.
On sent que t'as envie de parler de Ricciardo.
C'est qu'on est 4 à être capable d'animer l'émission et à un moment on tire tous la couverture à nous en fait. On veut tous animer un petit peu l'émission.
Et puis un animateur qui ne laisse pas la parole, il la monopolise.
Je t'emmerde.
Oui, mais moi aussi je t'emmerde.
Oui, c'est genre...
Tu sais.
Moi, je crée. Je, voilà, j'innove, j'expérimente.
Mais moi aussi. Mais... Eh, la dernière fois, j'innove.
Pareil, quand...
Ça vous a fait chier, mais j'innove. Moi,
alors. L'autre, il a innové, il a balancé le nom du vainqueur du Quintet Plus dès le début. moi, je fais l'inverse, tu vois. moi, j'ai une petite question, messieurs, plus dans l'optique du championnat du SAV. Je vous fais un petit point sur le classement. On a en un point Ricciardo, Raikkonen et Leclerc. Moi, j'aimerais que vous me disiez, messieurs, de ces trois pilotes-là, lequel mérite le plus, selon vous, d'être quatrième de notre championnat.
Ah, j'hésite entre Raikkonen et Leclerc.
Raikkonen, il y a toujours une prime à la sympathie de sa victoire.
Alors pour moi, c'est
Raikkonen, il se fait dominer par Vettel, donc pour moi c'est Leclerc.
À moi, ça se joue entre Raikkonen, entre Ricciardo et Leclerc. Parce que je suis désolé, mais la victoire de Raikkonen, ouais, c'est bien, mais ça compense pas tous les trucs où il a quand même pas été extraordinaire, même si c'est la meilleure saison depuis des années. Mais ça veut dire que les saisons avant, c'était vraiment pas terrible. Hein. Du coup, je verrais plus entre Leclerc et Ricciardo. Après, alors Ricciardo, le problème, c'est qu'il y a aussi un côté sympathie avec tous les problèmes qu'il a eu. Donc peut-être que presque par défaut, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est Leclerc qui a pas fait d'erreur.
Oui, puis il n'a pas de sympathie envers lui.
Si, il a de la sympathie. Mais,
non, mais
je suis fan de ce mec.
On a un truel de pilotes qui sont peut-être en ce moment les trois pilotes qui ont la cote de sympathie au maximum, quoi. Entre Raikkonen, Ricciardo et Leclerc.
Oui, c'est vrai.
Après, Ricciardo, un peu comme Raikkonen, mine de rien, a souffert de la comparaison avec Verstappen, surtout en fin de saison.
Oui, clairement, oui.
Évidemment, moi, c'est pour ça que je mettrais. Par rapport à Ericsson, que Leclerc il va souffrir. Et puis Leclerc a effectivement un capital sympathie du fait de sa fraîcheur et de sa jeunesse, de sa nouveauté, qui fait que c'est difficile de répondre à ta question.
C'est pour ça que moi je militerais plutôt pour Raikkonen, parce que pour le coup, effectivement, Raikkonen, on a aussi des choses sur lesquelles juger. Alors, même si on le juge aussi au parallèle de Vettel, mais mine de rien, il a été un petit peu l'assurance vie de Ferrari cette année. Il a été l'homme de la stabilité. Il a fait un bon début de saison. Donc voilà, il a été présent et il a tenu la baraque là où Vettel a pas trop tenu la baraque. Donc, moi, c'est plus sur cet aspect-là, sur cette espèce de régularité, même si dans l'ensemble, c'est assez moyen, mais cette espèce de régularité pour un bonhomme qui, rappelons-le, a 38 ans, je crois. Donc voilà, il y a quand même derrière aussi, 39. Donc voilà, il y a quand même quelque chose derrière aussi qui est pas mal. Donc moi, je trouve que c'est une excellente saison de la part de Raikkonen au regard de ce contexte-là et aussi par rapport à ce qu'on pouvait attendre de Raikkonen au regard des précédentes saisons.
Et pour se projeter,
évidemment, sur le chat, Shinji nous dit Raikkonen. Hein.
Oui. Ah, non. Et pour se projeter, je suis aussi impatient de voir l'année prochaine Leclerc dans la Ferrari que Raikkonen dans la Sauber. C'est marrant, hein?
Oui.
Dans un Raikkonen dans un environnement où je pense qu'il sera beaucoup mieux sans la pression italienne, etc. À mon avis, avec un team manager avec qui il s'entendra peut-être beaucoup mieux qu'arrive à Bene. Parce que je pense que Vasseur, il est franc direct et que c'est un genre de personne avec qui Raikkonen peut s'entendre très bien. Voilà.
Raikkonen a dit que Arriva Bene était le meilleur patron d'équipe qu'il ait jamais eu.
Oui, bah, il faut dire qu'après. Avant, il a eu qui? Le mec chez Lotus, dont on ne se souvient plus le nom.
Eric Boullier.
Eric Boullier.
Ah oui, il y a quand même Eric Boullier.
Dominique Ali. Il y a eu Jean Todt. Non, Jean Todt en 2008, je sais pas.
Non,
il y a eu Ron
Dennis
quand même.
Ferrari.
Puis il y a eu Peter Sauber. Il a quand même du lourd. Hein.
C'est vrai.
Et donc, messieurs, après avoir vu ce. Je pense qu'on peut faire le point sur le classement et puis passer au fait marquant.
Bien sûr, oui.
C'est ça, défends le Normand. Va... Défends-le.
Mais, non, mais en même temps, il a pas tort. On va passer au fait marquant.
Oui, c'est vrai.
Avec. avec 30 points positifs, 415 points négatifs. Ah oui, 415 points négatifs, un total de 385 points. Il a fini 14e de la course. Il est 20e et de très très loin, bon dernier de ce classement. C'est évidemment le français, et je précise, bas normand, Esteban Ocon.
Alors avant tout, je m'étonne qu'on n'ait pas mentionné dans les team managers de Raikkonen, Marco Mattiacci, hein, quand même, qui a fait un...
Oui, c'est qui lui?
À la tête de Ferrari, formidable, j'aimerais le saluer.
Mais je pense que c'est lui qui a posé toutes les bases.
Oui, oui.
Bon, on aura ce débat à un moment.
Aujourd'hui, Ferrari n'est toujours pas champion, aujourd'hui.
Oui, mais presque champion. C'est grâce à lui que Ferrari est presque championne. Et ça, voilà. C'est important. Ah oui, alors je m'excuse, Shiji me corrige, il est pas de Basse-Normandie, il est encore pire, il est de l'Eure. Donc en fait, il est du bas de la Haute-Normandie, donc c'est encore pire.
J'y comprends plus rien, ouais.
Oui, ça faut être normand pour comprendre.
Oui, mais peut-être bien qu'il est bas normand ou peut-être bien qu'il est haut normand, voilà. C'est ce que j'ai entendu, moi.
Pour nous, c'est important. Il est haut normand, mais du bas de la Haute-Normandie. En fait, la Haute-Normandie, il y a deux départements. Il y a la Seine-Maritime et l'Eure. Et la meilleure partie...
Oui, l'Eure. En parlant d'Eure, important. Il est 23h17.
Oui. La meilleure partie... Oui, surtout qu'il y a encore un jeu à faire après. La meilleure partie de la Haute-Normandie, c'est la Seine-Maritime.
Rappelle-toi que ça a commencé par la fin.
Non, donc la course d'Ocon. Enfin, là, on va parler de l'accrochage, quoi, parce que le reste de sa course, on s'en fout.
Oui.
Mais je t'en prie, Bilo, anime, vas-y.
Mais vas-y, Bilo, oui, anime. S'il te plaît, Bilo, anime.
Je peux effectivement témoigner que le reste de la course d'Ocon, on s'en bat les steaks, puisque avec Bibiche, nous avons regardé la course en différé. Et Bibiche, elle, s'était fait spoiler, non pas le résultat de la course, mais le fait qu'il y a eu un accrochage entre Verstappen et Ocon. Et elle a passé une bonne partie de la course à ne pas comprendre comment c'était possible, puisqu'il y avait un écart quand même qui était assez important entre les deux. Donc on a attendu l'accrochage en se disant, mais ça se trouve, elle n'a jamais vu front, quoi. Oui. Oui, oui. Bah, elle est un petit peu coconne, mais bon, c'est...
Malheureusement, voilà, quoi.
Alors,
après, elle est sympathique. Elle est sympathique, elle fait des bons croque-monsieur, donc bon.
Ah, mais oui, bah, je comprends. Moi qui suis cuisinier professionnel depuis ce week-end, je comprends.
Tu me diras, elle fait des bons croque-monsieur, il y a un sens caché.
tout nos voeux.
Donc, allons, parlons de ce 44e tour. Et donc de cet accrochage entre Verstappen, alors en tête, et Esteban Ocon, qui se trouvait, de mémoire, je crois, à un ou deux tours. Il me semble qu'il dit deux tours.
Non, un tour, c'est pas possible, il pouvait pas être à deux tours.
Il me semble que lui, en interview, il dit « j'étais à deux tours et je voulais me dédoubler ».
Non, non, mais il était à un tour.
Bon, de toute façon, qu'il soit un tour ou deux tours, ça change rien.
Oui, oui.
Mais je veux dire, sur le premier truc qu'on a eu quand on a vu les voitures, parce qu'au moment puisque bien sûr le radiateur était pas en train de suivre
Ricardo.
Ça. C'est non, il croit que c'est Ricardo, et c'est surtout en voyant une voiture rose, Villeneuve qui s'est exclamé oh le con ce Pérez.
Ouais, c'était énorme ça.
Ah, et Ferro qui non, je crois que c'est Ocon. Je crois que Villeneuve qui dit c'est pareil ou un truc comme ça.
Ah, non, mais c'est qu'en fait en fait c'est que lorsqu'on voit les images, les premières images, donc on voit les deux attaqueux, c'est qui coup c'est Pérez, et puis après fait annonce c'est Ocon, et après ils remontent ils sont pas tout à fait sûrs, mais le moniteur avait indiqué Ocon. Et du coup, quand il remontre l'image, bah, t'as effectivement Villeneuve qui insulte Pérez. Hein, oh, quel con ce Pérez. Et du coup, elle fait, oui, non, j'ai dit que c'était Ocon. Et Villeneuve, comment il se rattrape? Oui, c'est que vous aviez dit Pérez, du coup.
Il était resté sur Pérez. Ouais, non, mais ça pas arrivé. Attends. Il peut être de mauvaise foi, mais je pense que sur ce coup-là, effectivement, je pense qu'il était resté sur le premier truc qu'il dit Féro. Mais bon, bref. Enfin, bref, il y a la réaction passionnée de Villeneuve du mec qui a un tour de con sans avoir vu les images ou quoi. Mais voilà, ça m'a fait rire sur ce moment. Après, j'étais dévasté pour Verstappen qui faisait une super course jusque-là. Et ma réaction, j'avoue que ma réaction sur le moment a été très viscérale envers Ocon. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin depuis.
Mais c'est ça, hein. C'est-à-dire que moi, la principale difficulté que j'ai eue, c'est qu'effectivement, dans l'élan, ce qu'on comprend, c'est qu'on a un mec qui est en train de se faire prendre un tour, qui résiste comme un gros con, et qui va clasher finalement le leader de la course. Et là, effectivement, moi, je suis le premier à tomber sur Ocon en l'insultant. Après, quand tu regardes, quand tu comprends déjà que finalement, le mec essaye de se dédoubler, et qu'en plus, derrière, il y a un très bon thread Twitter qui a été fait par Fab. Ouais. Il revient sur les différents points de vue, etc. Moi, je vous incite fortement à les lire. Donc, c'est Fabien F1 sur Twitter. Allez lire ce thread qui est extrêmement intéressant.
Fabien,
où il reprend
Fab 1, surtout.
Oui, c'est Fab 1 underscore F1, fameux journaliste de motorsport.com, qui analyse bien l'accident avec les deux points de vue, etc. Et où en fait, on comprend que Ocon sort des stands. Visiblement, je pense qu'à ce moment-là, on lui agite le drapeau bleu, donc laisse passer Verstappen. Sauf que derrière, dans le tour qui suit, il est beaucoup plus rapide que Verstappen. Donc derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Lui veut se dédoubler. Il a une vitesse, il a une survitesse qui est très importante et arrive effectivement l'accrochage du premier virage. Donc là, c'est vrai que ça offre une lecture de l'accident qui est quand même très différente et où moi, personnellement, j'ai tendance un petit peu à inverser les torts.
C'est pas que j'inverse les torts, c'est que du coup, je rééquilibre un peu la balance. Mais c'est surtout qu'en plus, apparemment, Ocon dit quand même, je suis plus vite que Verstappen, qu'est-ce que je fais? Et l'équipe, gros, lui dit, ben vas-y, des doubles, passe-le et rentre dans ton tour, quoi.
Il a quand même le goût de. Ce qui est autorisé réglementairement.
Oui, ce qui est tout à fait autorisé. Mais en plus, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue stratégique, il y a quand même le goût de son écurie. C'est pas une décision qu'il prend comme ça dans la seconde.
Forcément, la mafia Mercedes, voilà.
Alors, moi, comment j'analyse. Le truc, c'est que, alors effectivement, on peut analyser l'incident en lui-même, et effectivement, le thread est bien fourni. Maintenant, on peut analyser l'incident d'une autre façon, à savoir que Ocon déclenche en fait quelque chose qui ne doit pas arriver, c'est-à-dire que c'est un retardataire, et le rôle du retardataire, c'est de ne pas gêner le leader. Donc ça, évidemment, c'est se pousser le plus vite possible lorsque les leaders arrivent. Et
sur quel point du règlement?
Je sais pas, mais s'il y a des drapeaux bleus, c'est qu'il y a un règlement.
Oui, sauf que là, je suis désolé, on lui montre pas un drapeau bleu.
Non, mais attention.
Si, le règlement lui permet de se dédoubler.
Laissez-moi. Oui, non, mais attendez. On met un drapeau bleu à un retardataire pour s'écarter lorsqu'un pilote qui a un tour d'avance sur lui est derrière lui. Ce qui veut dire, en gros, ne le gêne pas, puisque quand un retardataire gêne, il est pénalisé. On est d'accord?
Oui.
Fait qu'Ocon a ensuite le droit de dépasser Verstappen, ça, il n'y a pas de souci, il a le droit de se dédoubler. Mais en essayant de pas trop faire perdre de temps au leader, parce que justement, si, en tant que retardataire, si on lui met un drapeau bleu pour qu'il s'écarte rapidement, c'est pour pas faire perdre de temps au leader. Je sais pas,
De la même manière qu'on demande à un pilote qui est devant avec un drapeau bleu de laisser passer le leader pour pas le gêner, la logique aussi qu'il y a derrière, c'est parce que le mec, il est devant et c'est lui qui est le mieux placé pour pas gêner. Là, à un moment donné, c'est l'intelligence de course, et ça a été très bien souligné par Hamilton, c'est l'intelligence de course de Verstappen de se dire, je le laisse filer, je suis en train de jouer une victoire, lui, il est en train de jouer une 14e place, je laisse filer, j'élargis dans la sortie du S de Senna, je le laisse passer, le mec est plus rapide que moi, je le laisse filer, puis à un moment donné, s'il faut que je le repasse, je le repasserai. Là, il y a peut-être un excès d'engagement d'Ocon qui sous-estime peut-être le risque et la capacité cérébrale de Verstappen, mais il y a aussi un excès de zèle et de défense de la part de Verstappen qui est inconséquent pour un mec qui joue la victoire.
D'accord parce que il est surpris.
Non, il est pas surpris. Tu peux pas dire qu'il
y a course gagnée en fait.
Il
s'attend pas à ce qu'Ocon le double.
Mais si, il doit le savoir.
Mais comment tu peux dire ça?
Il doit le savoir. Ils doivent le savoir parce que ça fait au moins un tour que Ocon est derrière lui. Il doit avoir les informations d'écart. Son écurie doit lui dire, fais gaffe, il est chaussé en pneu super tendre neuf. Il a un meilleur rythme que toi. Il doit être au courant. Sinon, son écurie a fait une faute monumentale en ne pas le prévenant. Et surtout, on peut pas dire qu'il a été surpris parce que Ocon a extrêmement bien préparé sa manœuvre. Il le passe. Sa voiture est bien devant celle de Verstappen au moment du freinage. Sur la droite.
Et Verstappen où la porte?
Et Verstappen est sur la trajectoire pour aborder effectivement à l'intérieur du virage au freinage. Donc il laisse quand même la trajectoire de course. Alors il laisse la trajectoire de course il prend la trajectoire de défense à l'intérieur. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que quand j'ai vu la manœuvre vraiment complète comme ça, tu te dis, et que quand effectivement t'as l'explication que Fab a donnée avant, qui amène à ce moment-là, tu te dis. Mais effectivement, la surprise, Verstappen ne doit pas être surpris. Et c'est surtout pourquoi il retarde autant son freinage pour absolument garder sa place. Il y a une mauvaise gestion de course de la part de Verstappen, c'est d'avoir absolument voulu résister. Et que, je sais pas si c'est dit, je veux pas perdre 3 dixièmes, etc., machin, alors qu'au final, le recul c'est facile, mais je pense que même en se battant, il aurait perdu ce temps-là. Voilà. Après, ça c'est la partie où, au moment du freinage. Après, là où, je pense que Verstappen s'est imaginé que de toute façon, il s'est dit, je suis le leader, j'ai la priorité, donc il a dû me voir comme j'ai retardé mon frère dans le machin, il a dû me laisser passer. Et Ocon, il aurait dû effectivement ne pas insister comme il a fait. Et je pense que c'est surtout là où il a été sanctionné. C'est le fait à la sortie du premier virage, de pas avoir carrément laissé passer Verstappen, qui lui a coupé comme si Ocon n'était pas là. Parce que c'est surtout le deuxième virage le problème. C'est pas le premier, c'est le deuxième.
Moi, je veux pas les choses ainsi, c'est-à-dire qu'il fait sa course, il a un retardataire derrière, il a pas à se dire, oula, attention, il va peut-être me dépasser, c'est pas le rôle du retardataire. Ou alors, le dépasser dans un endroit poussé.
Donc, en fait, ce que tu remets en cause, c'est le fait de pouvoir se dédoubler, tout simplement.
Non, 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 de se dédoubler dans un endroit pareil, faut le faire. Si tu veux te dédoubler, tu le fais de façon sécuritaire.
Mais tu veux le faire où, au Brésil?
Une attaque.
Attends, tu le fais où sur ce circuit? Explique-moi Ocon peut le faire.
Oui, mais ça, c'est pas le problème de Verstappen. C'est Ocon qui a un tour de retard, c'est pas Verstappen.
Ouais, mais attends,
Verstappen.
Il est 5 mètres de... Au moment du freinage, il est 5 mètres devant Verstappen. Tu le vois qu'il est clairement devant lui. Tu veux qu'il fasse quoi? Il a pas surpris quand au moment où les deux freinent...
Il a qu'à ralentir.
Mais il est devant lui, il va pas freiner. Vas-y, passe, je t'ai doublé, mais je te laisse passer.
Mais il est devant lui, il est pas devant lui au point de pouvoir prendre le virage tranquillement. Hein.
C'est Verstappen qui retarde son freinage comme s'il était en bagarre pour la première place. C'est ça qui est pas compréhensible. Mais si tu veux, je blâme pas parce que Verstappen, il est leader, donc pour moi, il avait la priorité et je reste persuadé que Ocon est en tort dans l'histoire parce que c'était lui qui était à un tour. Mais c'est là où je comprends complètement la remarque de Hamilton dans la cool room où. Ah, et comme l'a dit Dino tout à l'heure avec l'aplomb de ses 5 titres de champion du monde, il lui dit, il fait comprendre à Verstappen qu'il a quand même une part de responsabilité. Parce qu'il a trop cherché, il a été un peu trop agressif et pas en mode, je gère ma position et la route sur vers la victoire, quoi.
Oui, mais tu peux pas dire ça la course finie et tout. Là, le mec, il est dans sa course, il est en train de gérer un écart qui est quand même faible avec Hamilton, faut pas l'oublier. Et là, voilà, t'as un retardataire qui essaie de le dépasser. Il sait très bien que s'il se fait dépasser par le retardataire, il perd une seconde et demie. C'est plus la même chose après. C'est peut-être plus la même chose par rapport à Hamilton.
Mais bien sûr que si, que c'est la même chose. La course, elle est gagnée à ce moment-là.
Non, tu peux pas dire ça. Mais non, non.
Ah, si, la course, elle est finie.
Non, parce que Ocon qui passe devant et après,
Milo, s'il te plaît, laisse-le parler.
La course, elle est finie à ce moment-là. Même avec la voiture endommagée, il revient sur Hamilton en fin de course. C'est terminé. Il est devant. Il a des pneus un cran plus tendres qu'Hamilton. Il a la voiture qui bouffe le moins les pneus. Il a gagné la course à ce moment-là. Il a aucun zéro intérêt de refaire le freinage à Ocon et d'essayer de rester devant. Ocon, enfin, c'est incompréhensible. C'est la science de la course d'un bulot cuit. Alors, c'est incompréhensible.
Je vais te poser l'équation.
C'est l'intérêt qui est important.
Je vais te poser l'équation d'une façon différemment. Parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il a gagné à ce moment-là, on ne sait pas s'il a gagné la course ou pas. On part de cette hypothèse. Qu'est-ce qui se passe? Soit, donc, il laisse passer Ocon. Il n'insiste pas, il laisse passer Ocon. Deux possibilités. Soit Ocon est plus rapide et du coup, il ne gêne pas Verstappen. Soit Ocon est finalement pas aussi rapide et est devant, juste devant Verstappen. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se prend un drapeau bleu, il laisse passer Verstappen.
Mais ça c'est hasardeux de dire ça, parce que pour un mec qui justement est pressé de doubler, de se dédoubler, est-ce que vraiment s'il y a drapeau bleu, le mec se serait laissé passer facilement? C'est pas sûr.
À ce moment-là, il se prend la vraie règle du drapeau bleu dans la tronche et il est obligé de le respecter, puisqu'à un moment donné, le leader revient sur lui, donc il est obligé de laisser passer.
Ah ben oui, mais il est obligé, mais il peut ne pas réagir aussi vite qu'on peut attendre de lui.
Alors c'est là où cet argument-là peut être utilisé pour expliquer la défense de Verstappen. Peut-être qu'effectivement Verstappen se dit derrière j'ai Ocon qui a plutôt brillé par sa complaisance pour Mercedes. On sait aussi que Mercedes a eu pour coutume d'utiliser son pilote numéro 2 pour ralentir, etc. Alors, peut-être que d'ailleurs on l'a vu dans les déclarations après chez Red Bull, on a crié au complot, etc. Peut-être que dans les visées un peu complotiste de Verstappen et de Red Bull, à ce moment-là, ils se disent, si on laisse passer Ocon, moi, en tant que pilote, je laisse repasser Ocon, peut-être que Ocon va me bloquer, va me bouchonner dans la partie sinueuse et va permettre à Hamilton de revenir. Maintenant, sur la lecture de la course, et c'est le point qui est intéressant et qui est soulevé par Gus Gus, dans la lecture de la course, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de se précipiter comme le fait Verstappen, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Buchor, où Buchor dit que Ocon, enfin, sous-entend, tu me diras si je me trompe, Buchor, mais que c'est effectivement Ocon qui est responsable. Pour moi, celui qui est vraiment responsable de l'accident, c'est Verstappen. Parce que des deux, qui n'a pas intérêt à aller au crash, qui joue la victoire et qui doit servir de sa tête plutôt que de sa bite à ce moment-là, c'est Verstappen. Sauf qu'à ce moment-là, Verstappen n'utilise plus sa tête. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il fait une course brillante, il pouvait remporter un superbe Grand Prix, sans doute l'une des plus belles victoires de la saison en termes de maîtrise. Et là, il foire ça à cause d'un moment donné d'absence de lecture de la course, mais qui est normal de la part, encore une fois, on parle de deux pilotes qui déjà ont un passif ensemble et qui en plus ont 20 piges. Donc remettons aussi les choses dans leur contexte. C'est deux pilotes, peut-être un qui veut trop en faire, mais qui est dans son droit. Ocon a le droit de se dédoubler et qu'on le veuille ou non, il pouvait faire la manœuvre. Il l'a fait proprement. Verstappen, au bout de la ligne droite, se déporte légèrement sur la gauche, donc du coup, lui ouvre la porte. Donc il envoie les signaux comme quoi, ok mon gars, tu peux passer, sauf que derrière c'est Verstappen qui fait la boulette et qui pour le coup est en surdéfense, là où peut-être il y en a un autre qui est en surattaque.
Là où je suis pas d'accord avec toi, Dino, c'est sur le signal de il fait un signal pour laisser passer. Quand tu te mets sur l'intérieur, mais derrière, c'est pour défendre ta position, c'est pour garder la trajectoire préférentielle à l'entrée du virage.
Ouais, mais il ouvre l'extérieur sur un pilote plus rapide.
C'est la trajectoire de course.
C'est le signal que tu veux défendre, mais c'est aussi le signal que tu sais que tu vas devoir te battre dans le virage. Si tu sais que tu vas devoir te battre, au moins, quitte à bien soigner ton entrée, ce qu'il fait, tu soignes au moins le deuxième virage. Et là, pour le coup, il soigne pas du tout son deuxième virage. Donc, je suis d'accord, il se défend et il se prépare. Il se prépare pas à le laisser passer, mais dans le deuxième virage, il est complètement à côté de la plaque parce qu'il oublie, en fait, qu'il y a le mec à côté de lui.
Comme cela a été évoqué, Verstappen, s'il laisse passer Ocon, il perd une seconde et demie dans la manœuvre, un peu plus peut-être, et il perd potentiellement du temps par la suite avec Ocon qui le ralentit dans les virages sinueux.
Oui, bien sûr, parce que c'est le pilote Mercedes qui remettra le frein, mais il faut arrêter au moment donné aussi le pilote Mercedes.
Non, oula, attention, mais j'ai pas parlé de complot. On se calme. Attends, j'ai pas parlé de complot. Je dis juste que forcément avoir un retardataire.
Dans... Vous allez voir, c'est bien.
Avoir un retardataire dans un secteur sinueux, tu perds forcément du temps. Sauf qu'à ce petit jeu-là, je laisse passer Ocon dans la ligne droite. Après partie sinueuse, il va forcément me ralentir sans faire exprès, hein. Mais il va forcément me ralentir. Et après, il me laisse doubler. Mais du coup, s'il est plus rapide, il va me redoubler derrière. C'est un jeu malsain. Et au final, Hamilton n'est pas si loin que ça. Et donc je comprends Verstappen qui va dans le feu de l'action, il peut pas laisser passer Ocon en fait.
Tu peux comprendre, on peut comprendre. Enfin, on n'est pas en train de dire que à ce moment-là Verstappen il a rien compris, il a que des torts. On peut comprendre évidemment les situations. Maintenant, la question c'est qui est responsable. Déjà on a le recul et surtout c'est qui est responsable. Moi je suis désolé, quand tu regardes les choses en termes de responsabilité, on est tombé sur Ocon et il a pris une grosse pénalité. Stop and go de 10 secondes, c'est une grosse pénalité. Il prend une grosse pénalité. Effectivement, moi je rejoins l'analyse de Fab, c'est que la pénalité est peut-être un peu sévère et peut-être qu'on s'est précipité pour donner une pénalité à Ocon, parce que je pense que les torts sont beaucoup plus partagés. Moi j'aurais même tendance à dire que c'est un incident de course, mais que en termes de responsabilité, la responsabilité, c'est de celui qui a le plus à perdre. Et il y en a un qui a perdu la victoire sur ce coup-là. Alors que Ocon, il a perdu la 11e place. Donc, à un moment donné, la responsabilité, c'est de Verstappen. Parce qu'il peut s'en vouloir qu'à lui-même.
La responsabilité, alors je vais juste expliquer mon raisonnement, mais pour moi, la responsabilité, elle est clairement du côté d'Ocon. Pourquoi je dis ça? Parce que certes, Verstappen est responsable dans la mise en place de l'accrochage, ce qui a mené à l'accrochage. Et pour moi, par contre, pourquoi la responsabilité, je l'ai mis sur compte, parce que c'était à Ocon à éviter l'accrochage. Il aurait dû freiner quand il voit que Verstappen retarde son freinage et ne le laisse pas passer. Il aurait dû rester derrière. Ne pas jouer comme s'il se battait en fait pour une position en course, parce que là il joue avec le leader et il sait ce qu'il veut machin. C'est bon, il aurait dû en plus se douter que étant Verstappen il y aurait une réaction qui, mais voilà, au moment où il se fait là, par contre Ocon a dû être surpris de voir Verstappen retarder son freinage, et je pense que c'est là. Pour moi, c'est pour ça qu'il a pris la pénalité. Qui après sur la sévérité, je juge pas, parce que c'est super difficile dans ce cas-là de juger de la sévérité. Mais pour moi, la responsabilité finale, elle est vraiment sur Ocon, qui n'aurait pas dû insister. S'il était dans son bon droit, c'est ça.
Pour moi, la responsabilité pénale, elle est sur Ocon, parce que la logique du règlement, c'est quand même aussi de protéger le leader de la course en faisant en sorte que les retardataires s'écartent. La logique du règlement, après son application a des nuances, il est en droit de se redoubler. Maintenant, la responsabilité
civile,
morale, la éthique, responsabilité morale, sportive. Voilà, éthique, sportive, tout à fait, elle est 70-30. Parce qu'effectivement, Ocon peut se dire, oh là, c'est Verstappen, et il est en train de me refaire le freinage. Bon, je vais pas insister, je vais laisser tomber. De toute façon, je suis 14e. J'ai aucune chance d'aller jouer les points à part s'il pleut ou voilà. Voilà. C'est, Verstappen doit utiliser plus sa tête, et j'espère. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que je pense. Chez Red Bull, on ne le pousse pas vers le haut, Verstappen. On l'encourage on l'encourage là-dedans, et ça m'emmerde, parce que mine de rien, c'est du gâchis. Aujourd'hui, c'est du gâchis de temps. Évidemment, dans 10 ans, on en rigolera, j'imagine. Aujourd'hui, c'est un frein à sa progression. C'est pas rendre clairement service à Verstappen que de le soutenir dans ce genre de situation. Et Verstappen, il lui manque. Il lui manque peut-être son père qui, à l'époque, n'hésitait pas, alors dans des proportions un peu, peut-être parfois un peu violentes, mais n'hésitait pas à le recadrer et peut-être à être de bons conseils, même si ça s'accompagnait d'autres choses en même temps.
Moi,
Red Bull est 100% derrière, et c'est absolument pas constructif d'avoir une.
Il devra apprendre de cet incident, il devra en tirer une ou plusieurs leçons.
En tout cas, moi, je suis. je suis d'accord pour dire qu'effectivement sur l'accrochage en lui-même, c'est Verstappen le responsable, mais que sur le déclenchement de la manœuvre, je dirais que c'est Ocon le responsable, parce que il doit réfléchir aussi, parce que lui il n'a rien à gagner en fait dans l'histoire. Il se bat même pas pour des points. Et donc.
Et c'est exactement le même raisonnement que tient celui de Verstappen. Et c'est ce qui rend l'erreur, enfin, l'excès de défense de Verstappen incompréhensible. C'est que lui-même passe son temps à dire, moi, je fais ma course, je m'occupe pas des autres, y compris des leaders. Et, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça casse. C'est exactement le même raisonnement qu'à Ocon. Et qu'on vient aujourd'hui à opposer à Ocon. Bah, Ocon, il fait ni plus ni moins ce que fait Verstappen à chaque fois. Alors, peut-être avec moins de succès, peut-être avec moins de dosage aussi par rapport au mec qu'il est en train de dépasser, mais c'est vrai que Verstappen, lui, quand il dit ça, les mecs qu'il dépasse et sur lesquels il pousse, c'est des Hamilton, c'est des Vettel, c'est des Raikkonen, c'est des gars qui, eux, jouent pas à ce jeu-là. Là, il se trouve que Ocon, lui, il joue à ce jeu-là avec un mec qui joue à ce jeu-là. Donc, c'était un peu le concours des deux mecs qui se disaient, voilà, on va aller foncer droit l'un vers l'autre et on va voir qui va céder le premier. Bah, personne n'a cédé le premier. Moi, je trouve que c'est quand même, si on élargit la carte, c'est quand même annonciateur d'un duel qui s'annonce quand même très intéressant dans les années à venir. Si Ocon revient chez Mercedes et à la voiture, ces deux gars qui vont se retrouver en piste et qui se lâchent rien, ça nous annonce quand même un duel d'anthologie entre ces deux pilotes.
Ah, qui va faire
des tests. Deux tempéraments, en tout cas.
Ben, sinon, sur le fait que ce soit un peu...
Ah oui.
Un peu chaud... c'est ta faute, hein, Dino, hein. Parce que faire un jeu qui prend 55 minutes en début d'émission, voilà, tu nous as mis sur les dents.
Exactement.
Hein, et bah, donc c'est voilà, donc carton rouge, un drive-through pour Dino, parce que
oui.
Voilà, il faut que la vérité éclate.
Mais alors,
il faut.
Vous le demanderez aux auditeurs. Vous le demanderez aux auditeurs. cette montée en pression a permis d'avoir ce magnifique final, ce magnifique débat collectif.
Ah, c'est déjà
non,
la
après, y a eu...
ça. Ça, c'est de l'animation, messieurs.
C'est de après, il y a eu mes ententes. Voilà, je...
Ah, on sent qu'il y a 10 ans d'expérience, hein, quand même.
Mais oui, il y a de la bouteille.
Oui, oui, la vieillesse.
C'est oui, droit, c'est droit aussi qu'il y a plus de 2h30 d'enregistrement pour l'instant.
Ouais. Ça va, on est dans les délais.
Putain. Mais moi je suis claqué, il va falloir abréger.
Mais ouais. Non, mais de toute façon, on a quasiment
non,
fini.
Non, Bûcher, quelle grossière erreur. Plus tu vas vouloir abréger, plus il va allonger.
Non, mais,
non, mais après, non, mais Ocon sont... n'a pas le bon comportement.
Non, mais...
le mec qui relance le truc. Mais ferme ta gueule, Bio.
Excusez-moi de vouloir abréger les souffrances de reparler F1.
Je vous explique, si ça me gâche, de toute façon c'est moi qui diffuse. Donc je coupe vos micros, je balance le générique de fer et je dis au revoir aux auditeurs. Donc si vous voulez.
Ça, c'est des menaces que tu fais et que tu mets jamais en application.
Putain.
Parce que tu nous aimes trop, tu nous respectes trop.
Tu me connais pas encore depuis tout ce temps que je suis vraiment capable de le faire.
Oui, mais bon, on n'a pas encore poussé suffisamment à bout. On peut encore pousser encore.
Alors
je reviens rapidement sur le classement du championnat. Voilà, le classement FIA, on s'en fout. Vous le trouverez sur le site de la FIA. Le vrai classement le plus important, c'est celui du SAV. Je vous rappelle donc que Lewis Hamilton est champion. Il n'est pas champion depuis ce Grand Prix. Il devait déjà être champion lors du précédent Grand Prix. Voilà, il a 70 points. Voilà, Sébastien Vettel est pour le moment deuxième avec 54 points, Max Verstappen troisième avec 50 points, Daniel Ricciardo et Kimi Raikkonen sont ex aequo avec 44 points, Charles Leclerc est sixième avec 43 points, ensuite il y a un creux, Valtteri Bottas est septième avec 28 points, là je vous fais le classement complet pour que vous puissiez avoir les enjeux sur le championnat, Gasly 22 points et 8e, Ocon est justement 21e et 9e avec 21 points, Nico Hülkenberg est 10e avec 18 points, Romain Grosjean est 11e avec 17 points, suivent Perez avec 14 points, Magnussen 13e, Alonso 14e, comme par hasard, Carlos Sainz 15e, Stoffel van Dorn 16e, Marcus Ericsson 17e, 18e pour Lance Stroll et Sergei Sirotkin a marqué un point, il est 19e. Il y a toujours 0 point pour Brendan Hartley. Je vous rappelle que le Grand Prix d'Abu Dhabi sera votre dernière opportunité pour offrir un point à Brendan. D'ailleurs, messieurs, je ne vous ai pas posé la question, mais y a-t-il un pilote qui voulait donner un point de plus pendant cette émission?
J'ai envie de donner un point à Ericsson.
Un point de moins.
Point position en plus. À Ericsson qui je pense aurait pu faire une bonne course s'il avait pas été victime de As de et autre chose qui ont défoncé la voiture.
Oui, c'est vrai que la course d'Ericsson est quand même.
Moi, j'aimerais mettre un point à Ocon et à Verstappen dans la gueule.
Oui, mais on n'a pas parlé de leur altercation au parc fermé.
Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il y a à dire, voilà, ils ont joué avec jeu de main, jeu de vilain, ils ont fait
le
gamin.
C'est surtout Verstappen qui a fait le gamin. Bah non, justement. C'est Verstappen qui vient chercher la merde, alors Ocon, voilà, il a pas envie de se...
Alors Ocon, il cherche les mécaniciens.
Bah non, mais c'est un peu minable de la part de Verstappen de réagir comme ça. Alors heureusement, ce n'est qu'une bousculade, et du coup, on va pas en faire
c'est
un plat.
C'est minable, mais c'est attendu.
Mais non, mais qu'il l'engueule, qu'il prenne à peur. Non, mais qu'il le prenne à part pour l'engueuler, à la limite, il n'y a pas de souci. Mais on commence pas à bousculer et tout. Ça fait un peu caillis de débat cassable. Ça faut arrêter.
Non, mais c'est, là, on peut avoir un jugement moral. Moi, sincèrement, le jugement moral que j'ai, c'est qu'il lui a pas foutu son poing dans la gueule. C'est-à-dire, y aller juste pour bousculer, c'est con. Il aurait dû lui foutre son poing dans la gueule, vraiment. S'il avait dit.
Non, mais arrêtez.
Et je trouve, inversement que Ocon qui se défend, qui fait le firo et à la fin qui a un grand sourire, enfin le gars il a quand même eu le sourire à partir du moment donné où il a appelé ses mécaniciens, donc j'ai trouvé les deux relativement ridicules. Moi j'aurais aimé que ça fight un peu plus et quitte à jouer les bonhommes, que ça joue vraiment les bonhommes. Maintenant on passe notre temps à dire que c'est aseptisé, là on a deux caractères voilà, qui sont jeunes, qui sont fougueux, ils ont été séparés, voilà. Maintenant c'est pas forcément une bonne pub. Verstappen a été réprimandé, il va devoir faire deux journées de service d'intérêt général, même si on ne sait pas comment elles vont se faire. Voilà, le coup est marqué. Maintenant, voilà, ça fait partie des images emblématiques de la F1. Ça fait partie des trucs qu'on se rappelle tous de Schumacher. Je crois que c'est en Belgique, qui fonce vers le garage McLaren pour casser la gueule à David Coulthard. Oui, de Salazar, ça fait partie de ces images de la F1 où tu dis, voilà, à un moment donné, ce qu'on voit aussi, c'est des bonhommes qui sont dans un climat de tension et qui sont sur une autre planète. Enfin, les mecs sont prêts à se taper sur la gueule parce qu'ils se sont foutus au premier virage. Enfin, voilà, c'est aussi ça qui fait un peu la légende de la F1 et Verstappen, on le voit dès le départ et on l'attend tous indirectement. On sait, le mec dans la radio, il dit qu'il faut pas qu'il s'approche, et à partir du moment donné où le mec dit ça, on sait très bien qu'il va tout faire pour être à proximité d'Ocon dès qu'il le verra. Et on l'a vu. C'est-à-dire que dans le parc fermé, le mec passe son temps à regarder derrière pour voir où se situe Ocon. Il fait son interview et c'est lui-même qui met fin à l'interview pour aller chercher Ocon. Donc, on attendait tout ça, les caméras attendaient ça, on n'a même pas entendu les interviews parce que ce qu'on voulait voir, c'était Verstappen qui allait casser la gueule de Ocon. Et voilà, ce serait ça tous les week-ends, ce serait chiant. Mais là, voilà, ça fait partie des images qui font l'histoire de la F1.
Et le pire, c'est qu'apparemment,
après, je te mettrai ça.
Canal Plus, c'était la seule caméra qui a filmé la scène. Parce que du coup, c'est leurs images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux.
Non, mais moi, je te mettrai
après,
ça.
On rappelle que c'est l'hélicoptère Canal Plus qui prend beaucoup d'images aussi.
Moi, je te mettrai les deux en stage d'un jour dans une équipe de NASCAR quand ils s'entraînent pour les ravitaillements à se taper dessus. Hein. Par exemple, quand Keselowski qui avait fini vraiment en sang après une course, je te les ferai avec un stage avec Tony Stewart qui a pas ses points dans ses poches lui non plus. Voilà, là c'était vraiment crépage de chignon mine de rien. C'était,
oui,
c'était très gentil.
On peut vouloir une F1 moins aseptisée sans pour autant. Que les sportifs se comportent comme des cons.
En termes d'exemple, je le condamne. Maintenant, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que ça, encore une fois, ce serait ça à chaque fois, ce serait pas pardonnable. Là, c'est une fois, de la même manière que il y a Vettel quand il engueule Charlie Whiting. Bah, de temps en temps, on est tous les premiers à tomber sur Charlie Whiting et ses décisions. De temps en temps, même si on lui reproche qu'un pilote dise à Charlie Whiting d'aller se faire voir, putain, ça fait du bien. Mais on n'a pas envie que ce soit ça à chaque fois. Ça fait partie du truc. Évidemment qu'on va pas l'encourager. Maintenant, on va être honnête. Moi, je vais être honnête. Je vais pas bouder mon plaisir. J'attendais qu'il se casse, qu'il aille casser la gueule à Ocon. J'étais un peu déçu parce qu'il est pas allé au bout du truc. Voilà. C'est... Après, heureusement qu'il est pas allé au bout
oui,
du truc.
Heureusement.
Mais j'étais un peu déçu. Je suis resté sur ma faim.
Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai envie de mettre un refou à Horner qui dit oui, heureusement pour Ocon. Enfin, Ocon peut s'estimer heureux que Verstappen ne l'ait que bousculé. Mais mec, tu sais très bien que si ton pilote avait été au-delà, c'était un grand prix de suspension minimum.
Et voire plus. Saluons au passage le sang-froid de Ocon qui, lui, a son casque à la main. Et ça, faut avoir du sang-froid quand t'as ton casque à la main.
On parlait de Tony Stewart, oui, grand spécialiste du lancer de casque. Matt Kenseth, on s'en souvient encore.
Oui. Ah, c'était bien la NASCAR avant. Donc, pas de plus 1, pas de moins 1 sur ce Grand Prix. Erickson, est-ce que vous suivez Buchor?
J'ai une idée comme ça.
Oui, mais non. Moi, je suis prêt à suivre. Parce que sur le week-end, j'ai trouvé effectivement, on se paluche énormément avec Leclerc. Je trouvais quand même sur ce week-end, Erickson a pas été verni et était supérieur à Leclerc.
Et ne pas oublier
sur la qualif.
Et que le premier à avoir félicité Erickson publiquement, c'est quand même Leclerc, et sincèrement, il l'a fait, je pense. Donc voilà.
Allez, go.
Bilo, tu plus sois?
Ouais, allez.
Oh, quel enthousiasme.
Ouais, je l'ai rallié à ma cause. Merci, Bilo.
Je crois très difficile. Oui, bah, j'ai été sensible.
Et donc, du coup, Marcus Ericsson est ex-aequo avec Stoffel Vandoorne. Wouhou! Et il y a match.
Rien pour ça, rien pour ça.
Je propose qu'on lui rajoute un deuxième point.
Oui, aussi.
Au classement des équipes, il y a vraiment match dans le classement du SAV, puisque figurez-vous que Mercedes et Ferrari sont à égalité de points avec 98 points, et Red Bull est troisième avec 94 points. Donc il y a vraiment un match lors du prochain Grand Prix qui sacrera donc le constructeur du classement du SAV. Voilà, donc match à suivre à Abu Dhabi, une course qui aura nécessairement des enjeux.
Est-ce qu'on dit à Abu Dhabi ou en Abu Dhabi? Parce que dans le sud de la Gaule, il y a une petite ville à Vegno où on dit en Asie.
On voit qu'il y en a un qui a révisé ses classiques. Alors, avant de passer au fait marquant de la course, vu qu'on était bien tendu là, est-ce qu'il y a des drive-through sur ce week-end?
Bizarrement, non.
Moi, je vais réitérer mon drive-through sur Red Bull, qui je l'ai déjà développé, quoi. Enfin, c'est pas normal d'être... En fait, j'espère sincèrement, mais j'y crois pas des masses, que c'est une façade, hein, c'est de la communication, de supporter son pilote à tout prix, et qu'en coulisses, on lui reproche vertement d'avoir eu une intelligence de course de niveau zéro. Mais bon, si c'est que de la com, d'accord, mais j'y crois pas. Malheureusement, je pense que... Je pense qu'on est derrière Verstappen chez Red Bull, et c'est dommage de l'encourager à avoir ce faible niveau d'intelligence de course.
Moi, je reviendrai dans la catégorie drive-thru sur les qualifications et sur l'épisode Vettel avec les balances. Je trouve absolument scandaleux que Vettel n'ait pas été exclu des qualifications. Son comportement en qualification, et je suis fan de Vettel, même si ces derniers temps, je ne monte pas très bien. Mais le comportement
beaucoup,
de Vettel est absolument... Oui, avant je l'aimais, maintenant je le défonce. Mais je trouve que ce comportement est absolument scandaleux, notamment de la part d'un champion qu'il prétend être. Je baisse bien mes mots. Voilà, j'ai trouvé ça inadmissible de la part de Sébastien Vettel, décevant, même si ça s'inscrit aussi dans d'autres précédents. C'est surtout moi ce qui me fait réagir, c'est que on a vu les caméras embarquées, on a eu l'occasion de voir pendant le Grand Prix, enfin en avant Grand Prix, la caméra vue de l'extérieur, où on voit clairement que quand il accélère, les balances sont vraiment projetées en arrière. Donc non seulement le pilote arrive et manque par deux fois de heurter le mec qui récupère le plot, mais en plus quand il part, il prend le risque d'envoyer en arrière des balances qui doivent peser certains kilos et qui peuvent arriver sur des gens dans la voie des stands. Si on est cohérent avec le discours qu'on tient et le discours que je tiens depuis le début de saison sur la sécurité dans la voie des stands, c'est inadmissible qu'on se contente simplement de 25 000 euros d'amende et d'une réprimande à l'encontre de Vettel. Ce genre de comportement dans la voie des stands de la part d'un pilote quadruple champion du monde est absolument inadmissible, et on aurait dû exclure Vettel des qualifications à minimum. Ce n'est pas normal. Voilà. Je vais me faire une auto-transition.
C'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu quand on a commenté l'action lors du warm-up. Moi, j'avais pas vu. Effectivement, c'est la vue de côté où on voit les balances
projetées. Ouais.
Les balances projetées et c'est vrai que c'est pas jouasse.
Mais c'est surtout que du coup, en fait, on a toute la scène, mais uniquement vue de l'extérieur. En plan séquence, et donc du coup ça donne, parce que tout ce qu'on avait vu jusque là c'était un mélange de caméra embarquée, de la caméra de life, de la FOM sur le côté, qui jamais nous montrait, je précise assez bien, la FOM qui jamais nous a montré toute la scène alors que la caméra est juste à côté, et je pense que la caméra est restée sur la voiture de Vettel. Tu noteras que la vidéo qu'on a où les balances sont projetées, la qualité est moyenne, et je pense que c'est quelqu'un qui filme avec son téléphone, et donc du coup c'est pas des images diffusées par la FOM.
Chez Mercedes
mais pire, de chez Force India. Moi je trouve suspect que la FOM n'a jamais fourni ces images là et que les chaînes ont été obligées de trouver ailleurs. Voilà, et c'est effectivement quand on voit le truc dans le plan séquence, c'est tu vois toute la scène, comment ça se passe, je suis moins tolérant à IVT que ce que je pouvais l'être dans le warm-up.
Sur le chat, on a Taek qui dit « Donc, il faut exclure Vettel des qualifs pour avoir cassé deux balances et Verstappen aurait dû taper Ocon. » Alors, je vais juste faire une petite nuance. Il aurait fallu exclure Vettel, pas parce qu'il a cassé deux balances. Je m'en contrebats les couilles des balances de la FIA. C'est juste que le comportement du pilote est un comportement dangereux et irresponsable dans la voie des stands, où il y a des gens qui sont sans protection, où il y a des gens qui font simplement leur boulot, certains bénévolement, et ce comportement-là est inadmissible. Les balances, je me les colle dans le trou du cul et je veux même pas en parler.
Ça va être lourd quand même.
Qu'on ait mis... Ouais, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que c'est Vettel qui me les collera dans le trou du cul. D'ailleurs, je trouve très suspect que l'investigation qui a été faite sur la FIA, ce soit parce qu'il a endommagé les balances. C'est pas ça le problème. Quand on a fait des investigations sur les unsafe release, c'est pas parce qu'on a accessoirement endommagé la jambe du mécanicien de Ferrari. C'est à un moment donné...
Non, l'investigation de Vettel sur le cas Vettel, c'est pas juste parce qu'il a endommagé les balances, c'est parce qu'il n'a pas suivi la procédure standard, les consignes où il doit couper le moteur, etc. Et que effectivement,
les gens le résument à ça, quoi.
Et que en ne respectant pas les consignes, il a aussi entre autres abîmé du matériel de la FIA qui sert à contrôler non seulement sa voiture, mais toutes les voitures. Donc s'il flingue les balances, c'est-à-dire que ils empêchent la FIA de pouvoir procéder à des contrôles sur d'autres voitures. Donc il y a tout un enchaînement de trucs.
Ça, je suis parfaitement d'accord, mais en fait, ce qu'on a retenu, ce que les gens ont retenu de la décision, c'est qu'il a endommagé les balances, que les 25 000 euros servaient à rembourser les balances. Il aurait fallu, en fait, que la FIA dise, les balances, on s'en fout. Le problème, c'était pas ça. Le problème, les balances, on s'en balance. Le problème, c'est le comportement du pilote. Qu'il ait les balances ou pas, qu'il les ait pétées ou pas, on s'en fout. Le vrai problème, et d'ailleurs, on voit toujours la logique de la FIA de sanctionner, les conséquences. C'est-à-dire que quand deux pilotes se crashent, quand il y a deux pilotes qui ont un problème en piste, tant que c'est pas dangereux et tant qu'il n'y a pas de casse, on sanctionne pas, ou en tout cas on amoindrit. Là en fait il y a eu de la casse sur une balance, donc du coup on sanctionne sur la balance. Il aurait fallu retirer la balance et dire on s'en fout de la balance, nous ce qu'on pénalise c'est le comportement du pilote qui est inadmissible.
C'est marrant que tu parles des conséquences, parce qu'aujourd'hui même dans une interview, Charlie Whiting a dit que dans le cadre de l'accident Ocon-Verstappen, on s'en foutait que Verstappen ait été le leader de la course. Honnêtement, ça arrive entre un mec qui a un tour et un mec qui a deux tours. Je pense pas qu'il y ait un stop and go.
Dans la même interview, apparemment, il a dit que il s'est aussi penché sur le cas Hamilton Sirotkin en qualif. Et il a dit de toute façon, les deux se seraient accrochés. La décision de ne pas ouvrir d'enquête aurait été la même. Mais Sirotkin rentre dans le cul d'Hamilton dans un tour de préparation en qualif, j'aimerais bien voir qu'il n'y ait pas d'enquête. Ça, j'aimerais bien qu'il me le démontre dans les faits. J'y crois pas une seconde.
Et j'ai une autre précision importante. Hein, j'ai là sous les yeux le mode d'emploi d'une balance. La voie anale n'est déconseillée. Hein. Il faut monter dessus. Il faut mettre les pieds dessus.
Ah, c'est pour ça qu'elle ne marche pas. Qu'elle ne marche pas.
C'est pour ça.
Pour ça qu'elle ne marche pas. C'est le thermomètre.
Tu as vu ma balance? Enfin bref. Mais je vous propose de passer au fait marquant de la course et je vais commencer par vous rappeler le sondage de la dernière émission. On vous demandait, question fort originale, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix du Mexique 2018. J'en profite pour glisser un message interne à l'un d'entre vous, messieurs, si quelqu'un peut se préparer à saisir le sondage de l'émission, je suis preneur, pendant que je donne les résultats du sondage. Vous avez été 116 à voter pour le sondage, évidemment on vous en remercie, tout comme on remercie toutes celles et tous ceux qui ont voté pour le pour la note, pour le quinté plus, le quinté moins. Les quatre propositions étaient les suivantes et par ordre d'arrivée, avec 9 votes et 8%, Alonso, c'était lamentable, 3 points de suspension, proposition faite par Redscape, si ma mémoire est bonne. Ensuite, nous avions, avec 12% des voix, soit 14 votes, Verstappen en bref, à Mexico, je ne sais plus qui l'a faite celle-là.
C'est pas moi.
C'est pas toi, donc c'est, je sais plus qui était avec nous. En deuxième position, pour une fois, Sébastien Vettel a fait le même nombre de tours que les autres, 24%, 28 votes, c'est moi. Et donc, du coup, le vainqueur, Buchor, c'est toi, puisque. C'est la proposition Ricciardo. 2 points promis, virgule, l'embrayage n'est pas battu Renault, point d'exclamation, avec 65 votes et 56% des voix, donc un pourcentage, un nombre de votes inversé. Voilà. Cette remarque n'a aucun intérêt et visait juste à rallonger la durée de cette émission.
J'ai gagné? Non, mais c'est pas possible, oui, j'ai pas gagné un fait marquant. C'est pas dans mes habitudes.
Non, c'est pas possible.
Et donc du coup, Buchor, dans en termes de classement, ah, c'est bien, il y a quelqu'un qui nous a préfait classement. Pour le fait marquant du Grand Prix du Brésil, c'est Bilo qui aura le premier choix, ensuite Gus, ensuite moi-même, et enfin Buchor. Donc qui fait le sondage?
Ben moi, je suis sur le. Ah bon, d'accord, bon, ok.
T'as vu qu'on ait 14 exemplaires différents du même sondage.
Ah donc, non. Donc Gus Gus le fait.
Moi non.
Oui. Alors Bilo, nous t'écoutons.
Alors je vais mettre... ah merde, comment je l'avais formulé? Ocon... prouve qu'il ferait un bon coéquipier d'Hamilton.
Non, sans déconner, tu vas résumer ce fait marquant à ça.
Tu vas faire de ça.
Mais justement,
potentiel infini et tu vas faire une formulation à deux balles. Oh, c'est scandaleux.
Putain, non, je sais. Bon, ok, je change.
C'est
je dis.
Cher payé.
Non, c'est trop cher.
Oh con. Oh con. Point d'exclamation.
Oui, voilà, tu fais. Parfait.
Ouais, mais je pensais que le côté provocant.
Un truc qui n'est absolument pas militant, franchement, c'est nul.
Non, je voulais faire un truc provocant, mais visiblement, ça a pas l'air d'être bien. Donc,
Non, mais c'est.
Bah, non, là, c'est mieux en fait.
Alors, comment je le typographe?
Alors, O-O-H, virgule con, point d'exclamation.
Et là, t'as un vainqueur.
Merci de me.
Du coup, notre travail maintenant, c'est de trouver des propositions.
C'est dramé. C'est dramé. Pour
diminuer la portée de ta victoire.
Mais c'est vraiment.
Non, mais là,
dramé,
vous parlez juste aux champions, aux champions pour les faits marquants. Donc voilà. C'est pas...
Je crois qu'on vise la peine pour l'autre.
Je me passerai de vos leçons, messieurs.
Moi, je suis champion dans les.
Bah, pour les... Pour je suis champion t'es, dans les... t'es à zéro victoire en 4 participations.
Oui,
hein,
mais 2018 a été moins bon, mais.
Ouais, mais moi, je suis champion dans les des dernières places dans le coup d'œil dans le rétro. Alors, ouais.
C'est bien.
Gus Gus.
Alors. De quoi on pourrait. Je vais essayer de prendre un contre-pied avec un petit jeu de mots en plus.
Si on fait des jeux de mots dans cette émission, on va pas s'en sortir.
Alors, franchement, oui, c'est vrai, ça ne nous ressemble pas. Franchement, virgule, les crépages de chignon. Je tape en même temps, c'est pour ça. De chignon. Chignon.
des chignon.
En deux mots virgule. Chignon en deux mots, c'est pas mal.
Ouais, non, non.
Ça fait penser au mignon.
Ça fait mal,
dans...
surtout.
Attendez, attendez, le jeu de mots arrive, s'il vous plaît, ne gâchez pas le moment. Donc franchement, les crépages de chignon des deux minots, on s'en bat les couilles.
On s'en bat. Oh, on s'en bat. Oh,
oh, oh, oh, j'avais pas compris.
Oui,
oui. Voilà. Tu vas
oui. Oui, oui, oui.
Vas-y, sors les rames.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme fait marquant? Vite, le classement. Passez-moi le classement. Vite en régie.
Le titre Mercedes.
On me dit dans l'oreiller que Hamilton a gagné.
Le titre Mercedes.
Oh, on s'en bat les couilles.
Ah, si, moi j'ai une formulation qui. Moi j'ai une formulation qui pourrait venir gêner Bilou.
Moi je cherche un truc avec Sainz parce qu'en fait j'ai pas envie de gagner.
Franchement,
j'ai envie d'assumer la défaite.
C'est pas que Sainz soit le nanogramme de nazi et qu'il est numéro 55. C'est pas vraiment le vrai fait marquant de cette émission.
Pour moi, oui, mais.
C'est vrai qu'on l'a découvert aujourd'hui.
C'est un hommage à.
Oui, mais je sais, à dernière émission.
J'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, que j'ai dit du bien de vous. De votre façon de voter, donc voilà, essayez de.
Oh, on n'est pas loin du McGate là.
J'ai rien à offrir.
Fais gaffe, t'es pas loin. Tu connais.
Ah non, techniquement, je n'offre rien, je ne soude, je ne.
Oui,
je
mais
ne fais pas de corruption. Je...
Tu t'approches du limite.
Pendant que
Dino
réfléchit, hein. N'oubliez pas que le SAV de la F1 c'est sur savf1.fr, que c'est le Ritz des podcasts, que c'est la famille. Non, mais parce qu'il faut meubler là, parce que là.
Votez pour les super SAV d'or, s'il vous plaît.
Il est en train de monter une table de chevet Malm.
Il y a une note de service, une note de service a été publiée ce week-end. Vous la retrouverez en, normalement en. En début de site, pour vous inviter, puisque le, oh, on va pas trop en dire pour l'instant, mais pour, attends, j'ai fini. Du coup, ah là, mais tu vas attendre deux secondes.
J'ai un truc
nul. Note là, j'ai fini mon explication. On ouvre la super hotline pour l'événement des 10 ans qu'on va
attends,
faire.
Attends, je la perds.
Le 8 décembre.
Ben, non, reviens, fais marquant. Reviens, dépêche-toi.
J'arrive à finir. Voilà, donc le 8 décembre, on a lors de l'événement pour fêter les 10 ans, on fera les super SAV d'or. Mais du coup, à cette occasion, on ouvre la super hotline. Je vais continuer à parler jusqu'à ce que vous. Voilà. Et donc, on vous invite à nous envoyer des messages par écrit ou par ou audio avant le 30 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc regardez, il y a un article, il y a une note de service sur le site. Merci. N'hésitez pas à profiter de la sixième occasion. Vas-y, je t'en prie, Dino.
Quel enculé, ce Dino.
Alors, moi, ce serait pour commémorer, pour célébrer le 8e anniversaire de la pole position d'Hülkenberg.
Attendez, il faut que je.
T'étais obligé de faire un roman.
Oui, ça va être assez.
Attendez, pour je vais faire, je vais écrire 8e en toutes lettres.
Bon, ça au moins, ça gagne un peu.
Oui, attends, il a pas écrit sans faute.
8e anniversaire de la pole position d'Hülkenberg.
Voilà, virgule. Sainz lui offre le trophée. Pirelli, directement Pirelli. Sur les flancs de sa Renault.
J'ai rien compris.
C'est pour le coup de roue.
Parce que le trophée Pirelli, c'est un pneu. Et en fait, on n'a pas arrêté de nous bassiner les couilles avec la pole position il y a 8 ans de Nico Hülkenberg que tout le monde avait oublié. Voilà. Et donc, coup, Sainz, en fait, il lui donne un coup de roue parce qu'il lui donne juste.
Le coup de roue de Sainz. Voilà.
Ah oui, mais bah, forcément, quand on explique, c'est encore plus mauvais, quoi. C'est...
oui. Ah, mais moi,
je vais mettre l'explication entre parenthèses.
Moi, mon objectif, c'est de finir dernier.
Tu veux pas. Bah, assume, du coup, on met l'explication entre parenthèses.
Ah ben, tu peux mettre l'explication en parenthèse ?
Alors vas-y, dicte.
Non, mais ça, mets, ça va faire bugger le site.
CF. Écoutez le podcast pour avoir l'explication.
Oh non, tu mets explication dentiste.
Avoir... Moi, je suis très déçu. Pour avoir l'explication, moi, j'aurais mis pour avoir l'explication détaillée de ce phénomène cérébral incroyable qu'est ce fait marquant.
Ah, vas-y, fais-toi plaisir.
Alors.
Moi, je délègue.
Vous êtes sûr que ça va pas faire bugger
le podcast pour avoir l'explication complète et exhaustive. Exhaustive. Je m'essaye de mettre toutes les lettres. Ah non, je peux pas. J'ai une limite de caractère. Je peux pas rajouter plus. Je suis désolé, Dino.
Bah, tu t'arrêtes. C'est pas grave. Tu le laisses comme ça. Tu t'arrêtes à la limite de caractère. C'est très bien.
Mais ça se voit pas bien. En fait, il y
aurait. Mais c'est
juste,
pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Je veux que ce soit merdique. On s'en fout.
L'explication. Voilà. L'explication C. Voilà. L'explication C. Très bien. Pour qu'on on laissera l'imagination des gens
voilà.
Faire le reste.
Allez, Bûcheur, ta proposition.
Alors, vous allez bon me courage. Dire, parce qu'elle est peut-être un peu borderline sur la proposition.
Vous allez me dire, vous allez.
Non.
Va plus doucement, j'arrive pas à prendre. Vous allez me dire, parce qu'elle est.
Très grosse. pardon, non, c'est pas ça. Non, ma proposition, c'est Mercedes remercie Verstappen de lui avoir offert le titre.
Oh, ça va.
Non, pas. Donc, vous voyez, Bilo, il fouettait un petit peu parce qu'il est là à commenter chaque. Donc, il est pas serein, mine de rien.
Il va gagner, mais avec une proposition qui n'est pas vraiment la sienne.
C'est moi qui
a un travail collectif.
Qui franchement est dans le bas du panier pour ce fait marquant quoi. Enfin pour un fait marquant aussi marquant
oui.
Par rapport aux autres. Enfin il s'est pas foulé quoi.
Moi je suis quelqu'un qui est bon un an sur deux. Voilà l'année suivante je me repose donc là voilà je m'attends pas à faire des trucs bons.
Ouais. Moi je me repose tout le temps.
En plus quand
tu as
choisi ton pseudo c'était l'année DB non.
Pourquoi d'ailleurs, si on change de lettre,
ça fait vélo.
Je pense qu'il est temps de clore cette émission.
Oui, je vais rappeler les propositions si tu le permets.
Ah oui, vas-y. Pour clôturer l'émission, rappelle les propositions.
Pour le fait marquant, bien sûr. Pour le fait marquant du Grand Prix du Brésil 2018, vous avez le choix entre les quatre propositions suivantes. Ocon en numéro 1. En numéro 2, franchement, les crépages de Signon des deux minots, on s'en bat les couilles. Réponse numéro 3, pour célébrer le 8e anniversaire de la pole position d'Hülkenberg, il faut que je fasse défiler le truc en même temps. Et ça, il suit off le trophée Pirelli directement sur les flancs de sa Renault, qu'on fait écouter le podcast par l'explication C. Et en réponse 4, Mercedes remercie Verstappen de lui avoir offert le titre. Pour voter, c'est très simple, vous allez sur savf1.fr, le sondage sera en page d'accueil et sur toutes les pages du site à droite.
Vous votez très bien, chers auditeurs.
Puisqu'on est en train de parler du site du SAV de la F1, je voulais, parce que personne n'a osé le faire, je voulais vous rappeler que le 8 décembre, nous allons fêter les 10 ans du SAV, dans une émission spéciale. Voilà, vous avez pu voter pour les SAV d'or. Petite nouvelle chose qu'on a publiée sur le site, c'est l'outline. Donc vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, jusqu'au 30 novembre, 23h59. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous poser des questions sur le SAV. Alors pas sur la cour, pas sur le championnat, etc. Ça, on s'en bat les couilles avec le jeune
Mouli. Oui, sur nous.
Mais vraiment nous poser des questions sur le SAV, sur notre histoire, sur nous, sur nos recettes préférées, etc. Et on y reviendra évidemment pendant l'émission du 8 décembre, qui sera pleine de surprises. Je ne fais pas les rappels puisque Gus Gus les a brillamment fait. Ce serait rallonger l'émission pour rien. Messieurs.
Le mot que tu cherchais, c'était brièvement.
Pas oui, brièvement. Évidemment, messieurs, merci à vous pour la qualité de cette émission et la qualité de vos débats.
Et surtout le contenu, 100% F1, oui. Bien sûr.
Merci à toi aussi, Milo.
Qu'est-ce qu'il a dit ce bâtard? Il va te faire reculer.
Il a dit merci pour le contenu et après il a dit merci à toi aussi, Milo, d'être venu.
Oui, j'ai compris, oui, c'était un coup d'indignation.
Ah, bah c'est bien, mine de rien, du coup, bravo alors.
Donc, encore merci, on le dit jamais assez, mais à la technique qui permet que cette émission soit faite, que ce soit Grand Prix du Brésil ou tout le restant de la saison. Voilà, on rappelle qu'on est un podcast merci. Amateur qui finit à pas d'heure. Donc, merci à tout le monde de nous donner cette liberté de parole. Merci à vous de nous écouter. Et évidemment, rendez-vous dans 15 jours pour le dernier Grand Prix de la saison, le 21e. Voilà. Allez, à ciao et bonsoir à tous.
Salut.
Bonne nuit.
Salut.
Bonsoir à vous.